Qui sont là à la technique et sans technique, pas d'émission, donc je les remercie. Ils sont tous de la bande du lycée des arènes et ce sont des pros. Sans eux, il n'y a rien sur Esprit Occitanie au niveau des émissions. Et puis, l'indicatif est signé de Damien Moreto et dans le studio, plein de belles personnes, qu'on va continuer d'ailleurs. Je retrouve avec plaisir Clémentine Lafay qui était venue dans l'autre émission et ici demain. Mais là, on va vous parler de la compagnie Lumière Crue. Bonjour.
Bonjour.
Je retrouve aussi avec plaisir Philippe Sanson. Lui, nous nous connaissons depuis un certain temps, cher monsieur.
Pas mal de temps, oui. Merci.
Directeur de publication d'Alter Echo, puisqu'il y a un numéro spécial qui sort sur les arbres. Et les arbres, quelquefois, on les oublie, on les rase. Or, sans eux, nous ne serions peut-être pas là. Laurence Talleyrac aussi qui est là, qui est professeure de l'université Jean Jaurès, mais ici elle est invitée en tant qu'écrivaine, parce qu'alors elle a publié 9 ouvrages chez nos amis de Plume de Carotte, un très bon éditeur toulousain, avec plein d'enquêtes au muséum. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Et puis nous avons Luc Morand qui était aussi prof. Et alors finalement, il s'est dit qu'il fallait qu'il change de voie pour montrer justement le bon chemin, puisqu'il s'est lancé dans la permaculture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans l'émission Traversée. Donc, comme à l'accoutumé, nous traversons les univers de l'écologie, des alternatives, de la culture, de la santé, de l'humanisme, pour la coopération contre la compétition. Ici, nous ne faisons pas de publicité, ni pour le Front National, ni pour les dirigeants de la FNSEA, qui sont tous sauf des paysans. Voilà, ça c'est dit. Alors, ben tiens, on va aller faire un petit tour peut-être avec une voix féminine du côté du théâtre. Alors, Clémentine, tu étais donc venue pour, puisque tu communiques aussi pour la compagnie A.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Dont nous avions parlé et qui sera au Festival d'Avignon, et c'est ça dans
tout le... C'est ça, pendant tout le off d'Avignon, au Théâtre des Lucioles.
Et tu auras une représentation aussi très prochainement en terre toulousaine.
En terre toulousaine, oui, bah, la semaine prochaine. Vous parlez de la compagnie, là ?
Oui,
la semaine prochaine, le dimanche 1er juillet, on joue les fâcheux à la nouvelle salle des fêtes de Balma, à 16h.
Voilà, les fâcheux qui ne sont pas des fâcheux.
Si, mais qui sont attachants. Bon. Excellent jeu de mots.
C'était pour détendre l'atmosphère. Mais ceci dit, toi tu as le micro, mais c'est Laurence qui a peur du micro, mais ça y est,
ça commence. Elle s'accoutume.
Ne t'en fais pas. Mais ceci dit, donc, tu es là aussi, Clémentine, pour parler avant tout donc, de la compagnie Lumière Crue. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet?
Oui, bien sûr. C'est une compagnie assez récente, qui a un peu plus de 6 mois maintenant, qui est un théâtre contemporain, qui revendique un théâtre contemporain et assez politique, sans parler de militantisme. Lumière crue, pourquoi ? Parce que on aime bien mettre en lumière ce que les autres préfèrent laisser dans le noir. Donc on parle souvent de sujets assez tabous, qui ne sont pas beaucoup évoqués, comme les violences gynécologiques, par exemple, les personnes qui sont en détresse psychologique, qui sont assez marginalisées dans la société. Mais on essaye toujours de le tourner avec de la légèreté et de l'humour. Voilà.
Et donc, à ce moment, est-ce qu'il y a des représentations qui sont prévues ?
Alors, pour l'instant, on laisse l'été se passer pour se reposer et aller sur de nouveaux projets. Ce qu'on a fait là à partir du mois de décembre, c'était que tous les premiers jeudis du mois à l'Eau Bohème, on faisait une sorte de soirée théâtralisée avec des thématiques différentes. Donc c'était, on était deux personnages bouffonnesques, Cunégonde et Joséphine. Et à chaque fois, on accueillait un peu les gens dans nos univers. Donc on a fait une soirée théâtralisée sur la thématique de la fête foraine, une sur la thématique de la boum, et une sur la thématique du repas de famille. Donc à chaque fois, c'est plusieurs petites performances. On met les spectateurs et même ceux qui viennent juste boire un coup en immersion en leur montrant notre univers.
D'accord, et donc c'est toi qui écris le scénario, on va dire, la pièce de théâtre, ou vous êtes à plusieurs même ?
Alors jusqu'ici, on écrivait à deux, tout ça. Donc à partir d'improvisation et aussi chacune de notre côté, et puis on mettait en commun. Et maintenant, c'est moi toute seule.
D'accord. Et comment te vient l'inspiration, justement, par rapport à l'actualité, par rapport à tes ressentis ?
Par rapport, par rapport à l'actualité, par rapport au vécu, par rapport aux lectures aussi, parce que je lis beaucoup, je vais voir beaucoup de pièces de théâtre, je vais voir beaucoup de films aussi. Donc c'est un petit peu tout ça, en fait, qui se mélange. Et puis les bêtises qu'il y a dans ma tête aussi, que j'aime bien mettre sur scène.
Pourquoi il y a beaucoup de bêtises dans ta tête,
Les apparences sont trompeuses. Oui, il y a beaucoup de bêtises dans ma tête.
D'accord. Et donc, sinon, la compagnie, c'est juste deux personnes ou il y a plus
Alors, cette compagnie a été montée avec Marie Guérin, qui est comédienne, plasticienne, et Julia Bernet, qui est plus sur la partie communication. Donc, on est trois à tenir la compagnie, maintenant deux. Et après, autour de nous, il y a forcément des gens qui nous donnent des coups de main à la technique, même à l'artistique. On a pas mal de réseaux. À la soirée du mois de décembre à l'Eau Bohème, on a des amis musiciens, comédiens, slameurs, danseurs qui sont venus. Donc, voilà. À tenir la compagnie, on est deux. Mais autour de la compagnie, on est beaucoup plus nombreux.
Et donc, en dehors du fait de jouer la comédie, mais avec des thèmes très sérieux, donc ce qui n'est pas évident, hein, c'est pas facile de jouer la comédie, parce que quelquefois, faire rire, c'est plus difficile que de faire pleurer.
Faire rire et mettre mal à l'aise, hein, les deux aussi. En même temps, oui.
Sur des sujets sérieux, mais comme nous les abordons ici, tout en gardant un côté convivial, l'un n'empêche pas l'autre.
C'est ça.
Et pour celles et ceux qui ne savent pas encore, il y a possibilité aussi de se poser des questions entre les invités. Tout est permis, sauf les deux à l'avant, en début d'émission. Et tu donnes aussi, Clémentine, des cours de théâtre.
C'est ça. Donc en indépendante, là cette année je suis intervenue avec une association qui s'appelle l'association Aranciel, qui est affiliée à la compagnie dont on parlait dans la dernière émission. Et c'était avec des enfants et des pré-ados. Donc on a eu les représentations le week-end dernier. Ça s'est super bien passé, c'était très très chouette. Et puis ça va continuer l'année prochaine. Et sinon, je donne des cours pour adultes, des cours particuliers en individuel.
D'accord. Donc là, c'est presque pour des pros après, pas forcément.
Ça dépend, j'ai un peu de tout. Là, cette année, j'ai eu des élèves très jeunes qui préparaient le conservatoire, qui voulaient devenir comédiens, mais j'ai aussi des gens qui travaillent par exemple chez Airbus et qui ont besoin d'un petit coaching pour pouvoir parler en public et pour décompresser.
Tout pouvoir coller aussi.
Exactement.
Voilà, d'accord. Merci pour cette précision et donc je reviendrai vers toi, mais comme je l'ai dit, donc vous pouvez aussi entre les invités vous poser des questions. T'en as peut-être Philippe à lui poser.
Pas tout de suite, mais il va y en avoir. Oui.
Alors, cher monsieur, puisque vous venez de prendre la parole...
Je la garde. Oui.
Alter Echo, alors est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est ce média alternatif qui est sans doute regardé de travers par certains dirigeants de notre monde ?
Alors, je ne sais pas s'ils nous regardent de travers, je ne sais pas s'ils ont vraiment peur de nous, mais enfin... Nous, on essaie, à notre petit niveau, de dire ce qu'on pense, justement, sur un chemin alternatif. Mais Alter Echo, ça existe depuis 2006, déjà, dans 12 ans. On est au 50e numéro. Et on est maintenant, on a changé de rythme, on est un quadrimestriel. Et on travaille à chaque numéro sur un dossier. Bon, ce que je précise tout de suite, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a que des bénévoles. On est Il n'y a pas de journalistes, même s'il y a des journalistes parfois qui écrivent. Les plumes sont diverses, on a des universitaires, des journalistes, des artistes, des militants associatifs, des gens qui se revendiquent de rien, des auteurs, on a un peu de tout. Mais après, toute la chaîne de fabrication est bénévole, militante. Il n'y a que l'imprimeur qu'on peut citer parce que c'est une coopérative, ouais, c'est Scopi qui travaille à Toulouse, c'est les seuls qui sont rémunérés. C'est pour ça qu'on a besoin toujours d'abonnés, de soutien, évidemment. Donc 50 numéros.
Scopi, c'est les anciens.
1034. Voilà, 1034. Et c'est avec eux, on est avec eux depuis le premier numéro, ils nous soutiennent et on les soutient. Et donc, des numéros thématiques qu'on essaie de décliner à chaque fois à travers le prisme, le triple prisme du journal. Qui est solidarité, altermondialisme, écologie. Et à travers ça, on essaie de décliner une thématique qu'on a choisie. Ça peut être très divers, hein, puisqu'on a décliné des fois autour de... pour rentrer par ces fenêtres-là, on a fait un numéro sur la rue. Le prochain numéro, on pourra en parler peut-être, celui qui apparaîtra en octobre, la thématique, on ne sait pas comment il va s'appeler encore, mais enfin, c'est la nuit, quoi. Autour de la nuit, il y a beaucoup de choses à dire avec notre regard à nous. J'ai déjà quelques pistes, on pourra en parler. Hein. Peut-être parlera-t-on d'abord de ce numéro. Alors celui-là, oui, on a choisi. En plus, c'est une première un peu ce numéro par rapport à nos dossiers. Je vais expliquer pourquoi. On a toujours mis en avant une idée, une idée générique autour de laquelle on développe. Par exemple, on a eu récemment sur les réfugiés, on a eu un numéro sur les réfugiés, on a eu un numéro sur les grands projets utiles, qu'est-ce qu'on a eu, nos identités aussi, hein, puisqu'on a voulu parler d'identité. Et on ne met jamais en avant une personne à la une, tout ça. C'est la première fois qu'on a décidé de mettre une personne à la une. Avec son nom en première page. En fait, c'était un numéro qu'on voulait bâtir autour du bois, de la forêt, de l'agroforesterie, de tous les problèmes de déboisement, mais aussi de tout ce qui existe. C'est ce côté-là qu'on voulait monter, de reboisement. Mais ce n'est pas un numéro qu'on voulait appeler forêt ou bois, quoi. On a voulu trouver un symbole. On a cherché un symbole et on a trouvé que le plus beau symbole qu'il pouvait être, c'était de mettre en avant cette personne qui est un peu, même si elle a eu son heure de gloire, qui est décédée en 2011, elle est passée un peu à travers le flot de médiatique constant, surajouté d'infos débiles, tout ça. Elle a eu le prix Nobel de la paix en 2004, et c'est la première africaine à avoir le prix Nobel. Hein. Elle l'a eu pour... on va dire toute son œuvre, mais au départ, c'est une militante qui s'est battue dès qu'elle a été à l'école et à l'université pour la défense des arbres au Kenya, pays d'où elle était originaire. Et elle a fondé un mouvement, une association. Après, elle a pris la défense des femmes, qui est quand même très liée aussi, on l'explique dans le journal, très liée avec la préservation de la forêt, notamment en Afrique, parce que c'est souvent les femmes qui sont les plus sensibilisées à ces questions-là, parce que c'est elles qui s'occupent des questions traditionnellement d'eau, de nourriture, et on voit que c'est un lien direct. Et elle a mené divers combats, hein, sur la démocratie, tout ça. Mais son combat initial et celui pour lequel elle a été reconnue, c'était celle qu'on a appelée la mère des arbres, qui a défendu les arbres. Et on a justement une très belle photo qui a été éditée par son mouvement, là, en première page, où elle étreint un arbre, une très belle photo d'elle. Voilà pourquoi on a choisi pour la première fois de mettre à l'honneur une personne plutôt qu'un concept, une idée. À décliner.
Mais c'est aussi important, comme je l'ai dit dans un certain nombre de réunions, il y a un esprit collectif chez Alter Echo, mais le collectif n'existe pas que parce que les individus le reconnaissent, mais il faut que le collectif aussi reconnaisse l'individu, sinon ça ne peut pas fonctionner.
Ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, on voit, ça rejoint un peu ce que tu dis, mais on s'est aperçu, on est beaucoup sur ces questions, nous, associatives, d'organisations militantes, ONG, fondations, tout ça. Et on s'aperçoit toujours, surtout avec un numéro qu'on avait fait récemment, qui s'appelait « Des acteurs d'utopie », où on avait essayé, acteurs d'utopie, c'est un peu bizarre, mais c'est justement, on était allé rechercher, on avait dit, on en a marre de dire que tout reste à inventer, on l'a dit, nous, hein, aussi, hein. Le monde est à inventer. On s'est dit non, le monde n'est pas nécessairement inventé. Tout existe déjà. Et la preuve, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent sur des populations immenses depuis 20, 30, 40 ans parfois. Tant en Inde, bien sûr, parce qu'il se passe des tas de choses, mais aux États-Unis, il y a des exemples. Et on s'aperçoit quand même, c'est là où je reviens à ce que tu disais, on s'aperçoit quand même qu'à chaque fois, quand il y a des mouvements comme en Inde qui touchent maintenant des millions de personnes sur certains projets hein, dont ils bénéficient, toujours à l'origine, il y a quand même l'idée d'un individu. Il y a quelqu'un qui a porté ça au départ. Alors bien sûr, c'est toujours gênant, mais c'est des gens qui s'effacent après derrière le collectif, mais ça a toujours été porté par quelqu'un. Il y a des gens qui portent des idées. On a un bel exemple aussi aux États-Unis, un maire qui a sans doute été assassiné, le maire de Jackson, lisait dans ce numéro des acteurs d'utopie la vie de cet homme extraordinaire, maire noir de Jackson, qui a sans doute été assassiné parce qu'il mettait toute sa ville en coopérative. Et c'est lui qui, au départ, a fait un travail énorme sur la ville. Il y a toujours des personnalités, au départ, qui se dégagent. Heureusement qu'après, ça agrège des gens autour, et après... Le danger, c'est que ça arrive parfois quand même, c'est que les personnalités prennent le pas sur. Rend l'esprit un peu.
Ça peut arriver ouais. S'ils ont les chevilles qui gonflent.
Voilà, mais bon, on essaie de choisir des exemples qui ne sont pas justement.
D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à notre ami là autour de la table? Oui, Luc Morin, bien sûr, en oui. Plus, toi qui passais donc de l'enseignement. Ah, la permaculture.
Oui, tout à fait. Donc, ça me touche beaucoup ce que tu as dit sur l'importance de l'arbre, par exemple, puisqu'effectivement, en permaculture, on considère que l'arbre est un peu le pilier sur lequel on va s'appuyer pour développer d'autres cultures. Donc, il est absolument essentiel et on a banni, effectivement, de l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire, on a des champs sans arbres. Sans haies, etc. Et c'est une aberration totale.
Oui, une aberration, d'autant plus qui est démontrée là, avec les événements, parce qu'il a beaucoup plu en France ces derniers temps, et du coup, il y a eu énormément d'inondations, mais forcément, enfin, il y en aurait eu sans doute. Mais là, il n'y a plus de haies. Les terres sont mortes si elles ont été assassinées par, non pas les phytosanitaires, mais les poisons, parce qu'arrêtons d'employer des vocabulaires qui ne veulent rien dire. Soyons clairs au niveau des choses. En tous les cas, ici, nous le sommes dans l'émission Traversée. Mais c'est ça. Ça veut dire, à force de tuer le vivant, forcément, quand l'eau arrive, ben, elle lessive tout.
Oui, les sols sont complètement appauvris. On a une érosion des sols qui est maximale. Donc, effectivement, la moindre pluie, tout s'en va. Donc, l'importance, effectivement, de réintroduire des espèces, enfin, des arbres, des haies, etc., c'est absolument capital. Donc, la notion d'agroforesterie aussi me touche beaucoup. Donc, comment faire vivre ensemble, effectivement, des arbustes, des arbres et des plantes vivaces ou pas, mais donc essayer de développer l'agriculture en hauteur aussi, hein, donc la couche au niveau de la terre, et ensuite on s'élève. Et donc c'est passionnant, parce que l'arbre apporte énormément de choses. Il apporte une litière quand les feuilles tombent, effectivement, ils vont enrichir le sol. Il fait remonter des minéraux de très très profond, et ces minéraux, les plantes en ont besoin.
Alors, qu'est-ce qui a fait d'abord, si ce n'est pas indiscret, tu étais professeur dans quel domaine?
J'étais professeur de lettres au collège et lycée pendant 20 ans.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as basculé vers justement l'agroécologie, la permaculture?
Alors, les raisons sont extrêmement nombreuses pour essayer de simplifier. Je pense que je n'étais pas complètement à l'aise dans le système éducatif français. Donc ça me pesait depuis un certain nombre d'années. J'aimais beaucoup toujours le jardinage et puis j'ai découvert la permaculture, soit en lisant des auteurs, soit sur Internet. Il y a des vidéos passionnantes sur j'ai découvert ça il y a à peu près 5-6 ans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On fait des choses que j'ai vu des gens dans des vidéos enterrer des arbres, effectivement, et puis cultiver là-dessus, en fait. Et apparemment, ça fonctionne beaucoup. Donc, c'était le besoin de plus de liberté, de moins de contraintes, de disposer de mon temps comme je voulais, d'un contact avec la nature beaucoup plus forte, plus fort, vivre en plus en harmonie avec la nature. C'est un refus aussi un peu de la société telle qu'elle est, de la société de consommation. Donc, c'est aussi un mode de vie, quelque part. C'est des techniques de culture, mais c'est aussi chercher à vivre autrement, plus en solidaire avec d'autres personnes aussi.
Parce que ça veut dire aussi derrière peut-être une perte de revenus.
Énorme. Donc il faut faire face à ça, c'est un peu l'écueil. Donc, puisqu'on parle d'autres modes de vie, je pense qu'il faut essayer de refuser les systèmes bancaires, essayer d'avoir le moins d'emprunts possible, de s'endetter le moins possible. Et effectivement, dans les écoles d'agriculture plus conventionnelles, et même dans le bio, ce que j'appelle le bio conventionnel, on va vous pousser à acheter un tracteur, on va vous pousser à acheter des kilomètres de serre. Et cet endettement, après, il faut y faire face par une très très grosse production. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette optique, j'ai essayé de m'endetter au minimum. Et du coup, on va réduire la surface de culture. Donc on parle aussi de micro-fermes, on parle de maraîchage sur petite surface. Donc moi, je suis sur 2000 m² maximum, c'est à peu près 10 fois moins qu'un maraîcher bio traditionnel. Et le peu d'endettement permet finalement de faire face. Alors je ne suis pas encore vraiment au niveau de l'équilibre financier, mais j'y travaille.
Et donc, ce que tu produis et qui est de la au-delà de la matière, du vivant, c'est
oui.
Du vivant. Tu proposes tu es en AMAP, tu proposes des paniers, tu es sur des marchés.
Alors, je suis pas vraiment encore en AMAP, mais c'est le principe de la vente de paniers, effectivement, tous les dimanches sur Toulouse. Je fais ma petite livraison.
D'accord. Et tu es basé où, sinon?
Je suis à Cuc-Toulza, dans le Tarn, à 35 km de Toulouse. Donc, tous les dimanches, entre 10h et 14h, j'ai mon petit réseau de clientèle et ma petite clientèle, et puis je livre les paniers à domicile. Donc, j'ai réussi à fidéliser un certain nombre de clients déjà. Je cherche effectivement à agrandir la clientèle. Donc, si parmi nos auditeurs, certains sont intéressés, vraiment.
Est-ce que tu as justement un site ou un contact où on peut trouver des informations sur.
Alors, j'avais fait un blog, mais qui n'est très peu visité, donc j'ai abandonné l'idée de blog. Après, j'ai une page Facebook, elle s'appelle La Saison Vive. Donc on peut retrouver mes coordonnées là-dessus, sur cette page. J'essaye de faire des flyers, mais qui pour l'instant n'ont rien donné, alors peut-être que je m'y suis mal pris.
C'est pas forcément évident de faire de la communication.
Oui.
Peut-être que tu pourrais demander des conseils à Clémentine, puisqu'elle s'en occupe.
Très bien,
compagnie à Philippe, tu avais peut-être des questions, des observations.
Oui, peut-être un complément par rapport justement à ce que tu disais là sur l'agroforesterie et tout ça. On a dans le numéro là dont il est question là sur les arbres et la forêt un bel exemple là qui nous vient du Gers d'un vigneron justement qui a fait le choix un peu insolite quand on n'a pas l'habitude. D'avoir des arbres dans ses vignes.
D'accord.
Ce sont des, si j'ai bonne mémoire, des érables. Des érables qui sont des trognes. Hein.
Oui.
Il explique D'accord. que la vigne est trogne aussi, donc l'érable est trogne. Et il a, par rapport à la rétention d'eau,
oui.
Par rapport
D'accord.
à tout ça, il y trouve des avantages extraordinaires. Bon, c'est un type qui est en biodynamie déjà, qui s'est fait connaître dans le passé d'une façon un peu médiatique, même s'il travaille sur des toutes petites parcelles. C'est le gars il s'appelle Noël Lassus, c'est le gars qui avait inventé un peu l'idée du pousse rapière dans le Gers, qui au départ n'était pas bien sûr en bio, tout ça, qui a changé totalement d'optique. Et ce qu'il explique, c'est que suivant son exemple, maintenant, il y a un mouvement auprès des vignerons. Il y en a certains qui se mettent à avoir des arbres dans leur champ, oui, dans leur vigne. Quoi. Mmh. Donc ça va dans le sens de ce que tu disais.
Tout à fait, oui. Y a certaines espèces végétales. Enfin, les légumineuses, par exemple, sont très intéressantes. Il y a des arbres qui sont des légumineuses, en fait, qui vont stocker dans leurs racines en fait, l'azote de l'air. Donc, je prends un exemple, l'acacia, on trouve fréquemment, effectivement, c'est un arbre qui va stocker dans le sol l'azote qu'il va récupérer directement dans l'air. Donc, introduire ces espèces, effectivement, au milieu d'autres plantes, les autres plantes vont en bénéficier. Donc, pas besoin forcément d'amender le sol.
Et puis dans les pays du Sud, par exemple, des choses qui avaient été oubliées justement pour faire de la surproduction, les endroits où on produit du cacao, du café, tout ça, c'est des plantations qui ont souvent besoin d'être abritées aussi du soleil, donc à l'ombre. Ils avaient enlevé tous les arbres pour gagner de la place, pour tout ça. Et il commence à y avoir un mouvement là aussi où on replante des arbres. Enfin, il y a des niveaux différents de plantation, des mélanges. Enfin, ils s'aperçoivent que ça fonctionne, quoi. Enfin,
oui. Tout. D'ailleurs, dans un des numéros de Alter Eco, ils évoquent la grande muraille verte qui essaye de.
Oui. Voilà, c'est pour se préserver surtout de l'avancée du Sahel, enfin du désert.
Peut-être que nous pourrions proposer à Trump, plutôt que de bâtir un mur entre le Mexique et les États-Unis, de mettre des arbres.
Ça peut être une bonne idée. Je ne suis pas sûr qu'il la suive. Enfin,
non, mais ce serait peut-être plus humain, plus et voilà, ça irait dans le sens peut-être de l'histoire, de ce dont nous avons besoin.
Oui.
Parce que sans arbres, il n'y a pas de vie. Sans océan, il y en a plus non plus. Et avec les bouleversements climatiques qui sont là et qui s'annoncent et qui s'amplifient, il y a quand même où celles et ceux qui nous gouvernent sont totalement hors sol, comme le dirait Pierre Rabhi. Ou alors c'est simplement la finance, les comptes en banque qui, voilà, mais a priori, ni les dollars, ni les euros, ni quelle que soit la monnaie, ne nourrit l'être vivant. Non. Ah, ça c'est juste un petit bruit de téléphone. Et donc, Laurence, ça va ?
Elle va bien, oui.
Bon, très bien. Alors, Laurence Talayrac, tu as publié donc 9 tomes des enquêtes au muséum, donc chez nos amis de Plume de Carotte. Alors, qu'est-ce qui pousse justement la professeure de l'université Jean Jaurès à se lancer dans l'écriture de romans destinés à la jeunesse à travers ses enquêtes ?
Alors, je vais vous expliquer ce que sont ces enquêtes au muséum. On va parler nature, mais avant, je voulais faire un lien avec nos deux intervenants, complètement anecdotique. Quand j'étais en collège, donc dans les années 80, on avait des cours sur les haies et on prenait le bus une fois par an pour aller voir les haies autour de la région toulousaine. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé au programme scolaire. Mais il serait peut-être bon de revenir un petit peu en arrière et d'apprendre aux enfants les bienfaits des haies dans les champs. Donc, Enquête au muséum, oui, ce sont des petits romans. Il y en a 9 qui sont sortis jusqu'ici. Il y en aura 3 de plus en septembre, publiés par Plume de Carotte, illustrés par Titoine. Et qui se déroule dans des muséums d'histoire naturelle ou des lieux qui sont proches des savoirs naturalistes. On a des jardins botaniques, donc on parle de botanique. Il y a des serres aux papillons. Et on va suivre les aventures de 3 enfants qui vont rentrer dans ces endroits-là de nuit, par effraction. Ils font bien attention à ce que personne ne rentre derrière eux. Avec des thématiques diverses. Et une des spécificités, c'est que certaines histoires se déroulent dans des muséums imaginaires ou dans des jardins botaniques imaginaires. Et d'autres se passent, en revanche, dans des muséums connus, puisque c'est un projet qui est porté par la Conférence permanente des muséums de France, donc qui regroupe une 40aine de muséums en France, et parmi lesquels une 20aine de muséums participent à l'opération. Et il y a également des muséums en Suisse et la Gironde du Luxembourg, donc le Luxembourg est rentré dans la danse. Donc tous ces établissements ont des préoccupations majeures. On sait que le muséum de Toulouse a pour message principal les liens entre l'homme, la nature et l'environnement. Donc tous les thèmes qui sont abordés peuvent intéresser les muséums et leur public, et notamment leur jeune public. Pour répondre à la question que tu m'as posée juste avant, qu'est-ce qui m'a poussée à écrire ces histoires ? Alors il y a d'une part l'universitaire, bien sûr, puisque je travaillais depuis 6 ou 7 ans avec le Muséum de Toulouse, donc sur leur collection à eux. Et en connaissant ces collections-là, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de livres ou d'outils pour visiter les collections, notamment à Toulouse, quand on est un jeune enfant et qu'on n'a pas forcément un parent derrière pour expliquer quel est le parcours qui est proposé au cours de la visite. Donc ça, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est la maman qui avait à ce moment-là une enfant de 9 ans et qui cherchait désespérément des livres qui parlent de ce qui se passe dans les muséums, donc des savoirs naturalistes, mais pas que, hein, des collections, des métiers liés à la conservation aussi, sans tomber dans le guide. C'est-à-dire que j'ai trouvé des romans. Tout le monde connaît La Nuit au musée, donc il va y avoir des romans, de la fiction, de l'imaginaire qui ne parlent pas des savoirs scientifiques. Et si on voulait aborder ces savoirs scientifiques-là, il fallait tomber dans le guide ou dans l'ouvrage de vulgarisation scientifique. Et là, ce sont des petits romans qui essayent de mêler les deux, donc qu'on lit pour l'aventure. Il y a une petite enquête dans chaque titre, mais il y a également un fil rouge, puisque l'héroïne principale, Zoé, a perdu ses parents quand elle était toute petite. Ses parents étaient deux ornithologues qui auraient disparu du côté de la Nouvelle-Zélande, et donc qui travaillaient sur les espèces en voie de disparition ou les espèces disparues, et notamment les oiseaux. Et chaque fois qu'elle se rend au muséum, elle pense qu'elle va trouver un indice qui va la mettre sur la piste de ses parents disparus. Alors évidemment, ce sont des thématiques qui touchent à la perte de biodiversité et qui ont pour ambition de sensibiliser les enfants à la sixième extinction.
Donc, tu vois, c'est pas un hasard si je t'ai invité. D'abord parce que j'aime bien aussi les éditions Plume de Carotte, qui publient toujours des ouvrages de qualité. Et en plus, là, de ce que j'entends, finalement, tu ne dois pas non plus être très copine avec Bayer, Monsanto, Syngenta, Limagrain et compagnie.
Non.
Mais c'est tant mieux. Non plus. J'espère que je ne t'ai pas déstabilisé. Mais voilà, c'est intéressant ce que tu racontes. Et donc, dans chacun de tes romans, nous retrouvons donc la même équipe. Cela permet sans doute aux lectrices et lecteurs de se repérer et d'adopter nos jeunes enquêteurs, je suppose.
Ah oui, oui, tout à fait. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que chaque fois que j'ai rencontré des enfants lors de salons ou de rencontres scolaires, je leur demande quel est le personnage avec lequel ils s'identifient, puisqu'il y a deux filles, donc Zoé, qui est l'orpheline qui cherche ses parents, sa meilleure amie Alice et le petit frère d'Alice qu'elle est obligée donc d'amener avec elle chaque fois qu'elle sort. Et les enfants ne me répondent jamais la même chose. Donc certains s'identifient à Clarence qui prend toujours tout au premier degré, d'autres à Zoé pour le côté un petit peu aventurière, et enfin d'autres à Alice qui est un petit peu plus sage.
Donc voilà, donc s'ils l'ont adopté, c'est que c'est bien, tu as bien senti les choses. Et donc, c'était aussi une manière de sensibiliser justement la jeunesse à la préservation, et tu l'as dit, de la biodiversité.
Tout à fait. Alors, ça parle de savoir scientifique, donc on part déjà de... Je parle d'évolution, de biogéographie, de distribution des espèces, mais pas que. Hein. Là, pour regarder les titres qu'on a sur la table, par exemple, à la recherche du nénuphar géant, ça parle de la naissance des jardins botaniques. Qu'est-ce qu'une serre? Qu'est-ce qu'un herbier? Comment est-ce qu'on conserve des plantes et à quoi ça va servir par la suite, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on se tourne vers des herbiers qui ont 100 ou 200 ans pour aller rechercher des traces de plantes aujourd'hui disparues. Le mystère des oiseaux sans pattes, par exemple, qui se déroule au muséum de Lille, parle des oiseaux de paradis. Et donc la légende des oiseaux sans pattes, mais touche aussi au commerce des plumes d'oiseaux. En piste Punch se déroule à Toulouse. Donc ça, c'est sur c'est Punch. Tout le monde connaît Punch. En général, quand on connaît Toulouse, on a déjà vu l'éléphant qui se trouve dans le hall central. Donc c'est sur la provenance des animaux naturalisés pour montrer aux enfants qu'un animal qui est dans un muséum, il a une vie avant d'arriver dans un muséum. Hein. Parfois, il vient d'un cirque, parfois d'un zoo. Donc le discours sur les cirques se retrouve aussi en filigrane. Et voilà, je peux continuer.
Oui, il y a les maléfices de la Gorgone.
Alors, les maléfices de la Gorgone se déroulent au Muséum Aquarium de Nancy. Alors là, on est dans les espèces marines et celui-là touche plutôt à la nomenclature. Donc, comment on appelle une espèce? Pourquoi on va donner un nom commun à une espèce et pas à un autre?
Et puis, il y a aussi l'île aux monstres.
Et l'île aux monstres. L'île aux monstres, ils prennent le train et ils se rendent à Londres, dans le premier parc à dinosaures, qui a été construit dans la seconde moitié du 19e siècle, donc 1854. Et ça porte sur les reconstitutions de dinosaures et les erreurs que certains scientifiques ont pu faire à partir des fossiles qui ont été retrouvés.
D'accord. Donc, ça demande aussi tout un travail.
Oui.
Avant de passer à l'écriture.
Ah oui, oui, bien sûr. Alors, certains des titres qui sont sortis l'an dernier portaient sur mes recherches personnelles. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de différence entre ce que je fais en tant que chercheur et ce que j'écris pour les enfants. En fait, je ne fais que vulgariser un savoir que j'ai envie de communiquer aux enfants. Et puis, pour les domaines que je connais un peu moins, il faut que je me renseigne. Il y a les chauves-souris, par exemple, qui peut intéresser ceux qui se font manger par les moustiques en ce moment. Sortira en septembre et c'est le muséum de Bourges qui est spécialisé dans tout ce qui est chauve-souris et ça m'a demandé un certain temps pour comprendre ce qu'étaient ces créatures-là. Voilà, donc c'est en fonction effectivement des objets dont il va être question.
Et peut-être que les chauves-souris, notre ami Philippe Sanson et son équipe d'Alter Echo en parlera dans la nuit.
Pourquoi pas, on n'y a pas pensé, mais pourquoi pas. Mais enfin, on a invité dans un endroit que tu connais bien une personne qui était spécialiste des chauves-souris. On a fait une soirée sur les chauves-souris.
Au Recantou, 42 voilà. Rue des Sept Troubadours, un lieu que je vous recommande où il y a à la fois de la nourriture au niveau de l'esprit de la littérature, mais grâce aussi d'ailleurs à nos amis de la librairie Floury, et aussi bien nourrir son corps à travers la production dont l'essentiel vient des adhérents de la Confédération Paysanne.
Absolument.
Voilà, pas des autres. Des questions à poser à notre ami Laurence. Ben, tu vois, Laurence, tu t'es très bien débrouillé.
Non, mais le micro n'a pas mordu.
Voilà,
donc, il est bien dompté.
Moi, j'avais éventuellement une question pour Laurence sur sa formation, puisque ça touche à la fois les sciences naturelles et la littérature. Donc, parce que tu enseignes Jean Jaurès, c'est ça?
Ah oui.
Donc, plutôt
oui.
Littérature. Mais j'ai cru comprendre quand même que tu avais des connaissances plutôt...
Effectivement. Alors, pour faire simple, en gros, alors, j'ai une formation d'angliciste. J'ai commencé par des études de médecine. Et par un bac scientifique et puis je me suis dirigée vers l'anglais, donc j'enseigne en littérature anglaise du 19e siècle et j'ai monté un programme de recherche avec le muséum de Toulouse à partir de 2008 qui m'a fait en fait me développer des recherches sur les collections naturalistes et qui a fait que j'ai été rattachée très rapidement à un laboratoire qui est parisien, qui est le centre Alexandre Coiré en histoire des sciences. Donc pour simplifier, et c'est un petit peu faux, mais en gros, j'enseigne la littérature et je fais mes recherches en histoire des sciences. En fait, je mêle les deux et j'essaye de décloisonner les disciplines et voilà, de montrer qu'il faut savoir passer d'une discipline à une autre pour comprendre des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que ceux que l'on pourrait penser de prime abord.
Clémentine, tu avais...
Ouais, j'aimerais rebondir sur l'intervention de Laurence. Déjà, c'est super. Ces vulgarisations scientifiques pour enfants, ça se fait très peu aujourd'hui. Et c'est vraiment important de continuer là-dedans. J'aurais deux questions par rapport au public. Donc c'est pour les enfants, j'ai bien compris, mais de quel âge à peu près?
Alors la tranche d'âge, c'est 8-12 ans. Mais j'ai déjà vu des enfants plus âgés les lire et puis des grands aussi.
Et même des adultes. Et dans ce que tu racontes et dans le petit synopsis que je vois derrière, je sens une dimension un peu fantastique dans ta littérature. Est-ce que c'est le cas?
Alors, je joue énormément sur les mythes et sur les contes. Cela dit, et notamment dans les récits qui se déroulent dans de véritables muséums, mmh. on est très proche de la réalité, c'est-à-dire que les enfants peuvent refaire le parcours avec de vrais objets et de vraies thématiques. Donc, ils sont destinés à faire rêver, mais on ne bascule jamais, sauf un qui risque de sortir en janvier 2019, où il y a un cirque qui apparaît, pouf, comme ça, sur une place. Mais à l'exception de ce titre-là, sinon, on n'est pas dans le fantastique.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, Philippe.
Oui, moi, j'ai une petite question, et ça tient peut-être plus à Plume de Carotte qu'à Laurence, hein. Puisqu'on est sur des lieux qui existent, hein, des musées répertoriés en France, hein, même ailleurs. J'ai vu nulle part la référence au musée dont il est question. Je pense que c'est volontaire pour pas trop le marquer, l'enfermer sur un musée, non ?
Oui, alors c'est volontaire.
C'est à la fois dommage
en fait,
et je comprends.
Non, le but est que chaque musée s'y retrouve. Mmh. En revanche, il y a à la fin des histoires, il y a des annexes. C'est parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout du livre.
J'ai pas eu le temps de tout lire encore.
Et lorsque ça se déroule dans un musée qui est connu, c'est indiqué à ce moment-là.
D'accord. Voilà,
donc on peut trouver, mais sinon dans le texte il n'y a aucune référence au lieu dans lequel
ni
ça
sur,
se
sur la couverture ni
et encore moins sur la couverture. Ouais. Effectivement.
D'accord. Merci pour ces précisions. Allez, juste avant de marquer une pause en chanson, et ce sera le duo Amélie Les Crayons Aldebert, Quelle heure est-il, mais juste avant une question complémentaire à Clémentine Laffa, donc qui a co-fondé la compagnie Lumière Crue. Qu'est-ce qui a fait que tu es plongé comme ça, tu t'es retrouvé dans le théâtre, l'écriture ?
Ah, dans le théâtre, où ?
C'est les études, tu es pas études littéraires,
ouais,
scientifiques,
pas que,
tout.
En fait, un petit peu tout. Quand j'étais à l'école, j'ai fait pas mal de théâtre. J'ai eu une professeure en CM1 qui nous avait monté un conte réunionnais et ça m'a... Je jouais une gorgone, d'ailleurs. Ça m'a fascinée. Donc, j'ai un petit peu continué dans le théâtre dans ma scolarité. Et en arrivant à Toulouse, j'avais fait 10 000 km pour arriver jusqu'ici, pour mes études. Je ne connaissais personne. Et je cherchais un endroit où faire du théâtre, mais vraiment en amateur, en loisir. À la base, j'ai fait des études de communication et de sociologie. Donc, pas grand-chose à voir avec la littérature ou le théâtre. Et j'ai rencontré... Une jeune femme qui était avec moi en sociaux, qui m'a parlé d'une compagnie de théâtre étudiante, où ils montaient une pièce inspirée du conte de Barbe Bleue et de la comtesse Bathory. Je ne sais pas si vous connaissez cette personnalité. C'est une comtesse hongroise qui a vraiment existé à peu près au XVIe siècle, qui a été accusée, elle a été jugée, elle a été accusée d'avoir tué des centaines de jeunes filles et accusée de les avoir torturées. On ne sait pas si c'est vrai, hein, c'était une femme très très puissante qui était plus riche que le roi, donc il y avait peut-être des petits magouillages politiques derrière. Et la légende dit qu'elle se baignait dans le sang de vierge pour conserver sa jeunesse éternelle. Donc c'était une pièce qui se montait là-dessus. J'ai rejoint le projet et je me suis rendu compte que ce qui me faisait me lever le matin, c'était vraiment d'aller répéter, de faire du théâtre. Donc je me suis lancée dans des études de théâtre. Là, j'ai terminé l'année dernière mon master en écriture scénique et dramaturgique. Et puis j'ai suivi pas mal de cours, de stages, de workshops, un petit peu dans tous les types de théâtre, histoire de me familiariser. Et du clown aussi. J'ai fait pas mal de clown. Et c'est un côté du théâtre. Enfin, c'est pas vraiment du théâtre, mais
ça se comprend. Mais c'est aller chercher son clown.
C'est aller chercher son clown, tout à fait. Il y a autant de clowns que de personnes différentes. Et ça, c'est fascinant. Donc voilà un petit peu tout ce qui m'a poussée à me mettre dans le théâtre.
Et est-ce que... Mais c'est pas évident, c'est dur, même s'il y a des tournages qui se font en région, Midi-Pyrénées, mais plus finalement Languedoc-Roussillon, puisqu'il y a un studio qui se crée du côté de Montpellier. Est-ce que le cinéma t'a attiré un peu? Tu as fait déjà... Tu as joué?
Oui, tout à fait. J'ai déjà joué dans quelques courts-métrages. Donc, le jeu cinéma est vraiment très différent
tout
du jeu
fait.
Du théâtre. Parce que devant une caméra, pardon, tout est complètement exacerbé. C'est-à-dire que sur une scène, on peut vraiment y aller, pousser la voix, alors que si on fait ça devant une caméra, tout de suite, c'est complètement, ça devient ridicule. Donc c'est vraiment deux types de jeux différents qui sont tous les deux très très intéressants. Et puis il y a moins besoin de pousser la voix aussi devant une caméra. Et oui, j'ai joué dans quelques courts-métrages. Là, j'ai passé quelques auditions parce qu'il y a un monsieur qui vient de Paris, qui s'est installé sur Toulouse. Donc peut-être que le réseau cinématographique va un peu plus bouger. Voilà, normalement, à voir pour la rentrée sur ce projet de court-métrage.
Ok, intéressant. Merci pour ces précisions. Allez, nous allons marquer, donc, comme je vous l'ai dit, une pause en chanson avec Amélie Les Crayons et Aldebert. Quelle heure est-il ? Mais ça, il est aux alentours de 10h45. À tout de suite.
Il ne fait pas bon ralentir par les temps qui courent. J'ai renoncé à retenir les aiguilles de quelques tours. J'oublie les journées imbéciles aux rencontres chronométrées. Comme un idiot dans la ville, j'ai vu ma montre s'arrêter. Quelle heure est-il quand elle accroche son sourire à mes yeux? Quelle heure est-il quand elle approche, ne fait qu'un de nous deux? J'ai perdu la notion du temps, tant mieux. Machine à bombe, si le bonheur est chronophage, les nuits sans rêve sont trop longues. Laissons-les scruter les cadrans. Moi j'ai pris le temps d'arriver. Les gens pressés sont transparents. Tenons-nous loin des sabliers. Quelle heure est-il quand elle accroche son sourire à mes yeux? Quelle heure est-il quand elle approche, ne fait qu'un de nous deux? J'ai perdu la notion du temps, tant mieux. Je les entends déjà nous dire qu'il est trop tard, qu'il est trop tôt. Que fabriquer des souvenirs, ça sert à rien, mais ça tient chaud. Quelle heure est-il quand on décroche juste une minute ou deux? Quelle heure est-il quand on s'accroche à rester amoureux? On perdra la notion du temps.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Traversée sur Esprit Occitanie, une émission qui se déroule en direct tous les vendredis entre 10h et midi. Alors, nous parlons de choses étranges, mais non, pas tant que ça, puisque nous parlons de la vie et de la préserver à travers les arbres, la permaculture, le théâtre, parce que c'est important, les muséums aussi, où il y a des enquêtes qui se mènent, mais pour amener à la préservation de la biodiversité, ce qui nous intéresse à plus d'un titre dans l'émission. Traversée. Alors, qu'est-ce qui a donné l'envie à l'équipe d'Alter Echo justement de se pencher sur les arbres et de faire tout un numéro autour de l'arbre ?
Aujourd'hui, l'arbre, par rapport aux problématiques du réchauffement, aux problèmes des paysans, ça paraît essentiel. Il fallait qu'on insiste là-dessus, même si on y revient souvent. Et à travers l'arbre, enfin, ce qu'on a voulu surtout pointer, c'est qu'à travers l'arbre, c'est aussi les populations qu'il y a derrière. Par exemple, quand on déboise, c'est pas seulement de la perte de biodiversité, mais c'est la perte, on va dire, d'humains derrière. Dans les forêts, il y a encore des gens qui vivent, qui habitent, ou des peuples premiers, parfois même, comme en Amazonie. Mais dans des zones qui sont encore plus déboisées, en Afrique, où des terres sont rachetées par la Chine pour planter, on n'hésite pas à expulser des gens. Et donc, derrière les arbres, il y a aussi les gens qui vivent sur le terrain. Et il y a justement une association que l'on cite, hein, on leur a consacré un petit article dans le numéro, qui s'appelle « Sauvons la forêt ». C'est une association qui est née en Allemagne, hein, qui est basée en Allemagne. Et Sauvons la forêt, c'est surtout, même s'ils mettent la forêt en avant, c'est surtout la défense des populations qui vivent en lien avec la forêt et qui bénéficient de la forêt et qui la préservent aussi, puisqu'elle leur est utile. Hein. Donc il y a eux. Et puis j'aimerais en citer une autre, hein, dans le même esprit. Ils font un autre travail. Ce sont des Suisses alémaniques là, avec lesquels j'ai été en contact et qui étaient enchantés de participer au numéro. C'est une association qui s'appelle une fondation, ils appellent ça une fondation Green Ethiopia. Donc leur terrain d'intervention, c'est l'Ethiopie. Il doit y avoir des liens historiques, personnels sans doute. Et ils font tout un travail auprès des populations au niveau du reboisement. Donc, eux, leur discours, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi pour éviter les sols qui sont lessivés, érodés, tout ça, c'est pour fixer l'eau. Et ils font un travail qui est très intéressant, dont on parle dans le journal, dans les écoles. Ils vont dans les écoles, ils ont des projets avec les enfants, avec les parents des enfants qu'ils embarquent dans les projets, pour les sensibiliser à la préservation et aussi au reboisement. Et ils ont tous des sortes de contrats avec les écoles où ils s'engagent à reboiser en périphérie. L'Éthiopie, c'est un pays qui était quasiment, à part le sud de l'Éthiopie, qui est désertique, mais c'est un pays de haut plateau, d'altitude, qui était quasiment boisé à 100%. Hein. Au départ, hein, à l'origine, et qui est maintenant déboisé à plus de 90%. Hein. Y a des raisons, hein, y a pas que l'impact de notre civilisation là-dessus, et des gens qui ont cherché du bois, parfois pour l'importer. Il y a aussi les populations locales qui n'avaient rien pour, comme bois de chauffage, pour la cuisine, tout ça, et puis même en altitude en Éthiopie pour se chauffer, parce qu'il peut y faire froid, et qui ont déboisé massivement. Ils comprennent maintenant qu'ils ont besoin des arbres. Ils l'ont compris eux-mêmes de suite quand il n'y en a plus. Et ils le comprennent aussi parce qu'ils ont vu les dégâts que les siècles précédents avaient causés.
Il y a aussi, plus près de chez nous, une association mais très très active et qui vient de publier un ouvrage d'ailleurs sur les arbres remarquables. C'est Arbres et paysages d'OTAN.
Ah oui.
Qui est sur la place Haut-Garonnaise et qui fait un très bon boulot. Et donc, une des intervenantes qui a cofondé l'association disait à ces mêmes, dans ce studio, que même si, quand on détruit un arbre qui a plusieurs dizaines d'années de vie sur Terre, même si on le remplace par 10 petits arbres, ça n'a rien à voir. Et l'écosystème est quand même déréglé et il a moins de pouvoir même de régénération même pour nous.
C'est ça, oui, absolument. Oui.
Comme quoi, enfin, je suppose, Luc, que quand tu vois un arbre même qui peut-être qui est à moitié mort, tu le laisses quand même en vie parce que les animaux aussi, les oiseaux aussi peuvent s'y réfugier. Enfin, je sais pas.
Oui, oui. Bah, disons que moi, je suis sur un site où les arbres existaient déjà. Alors donc, de toute façon, je suis bien obligé de faire avec. Alors, il peut y avoir parfois une difficulté parce que ce sont des arbres très hauts et qui vont apporter beaucoup d'ombre, par contre. Mmh. Voilà.
Ouais, donc, de la lumière pour
il faut trouver des astuces pour essayer de contourner ce problème. Après, des arbres, effectivement, j'essaye de d'en introduire d'autres, notamment des arbres fruitiers, etc. Et c'est effectivement les arbres existants, il faut essayer au maximum de les sauvegarder parce qu'il y a toujours un parti à en tirer. Hein, ça peut être. Ils abritent beaucoup d'animaux, etc.
Et en tant que maraîcher bio en permaculture, est-ce que au départ tu as réussi à avoir des aides ou elles sont réservées aux agro-industriels, faux paysans et vrais exploitants agricoles?
Eh bien, malheureusement, j'ai quasiment droit à aucune aide. Déjà, plus de 40 ans, on a beaucoup moins d'aide dans le domaine agricole. Et ensuite, effectivement, force est de constater que toutes les aides, la plus grande partie des aides vont
à la FNSEA.
Voilà, exactement. Donc, c'est pas simple du coup. Et c'est vrai qu'on n'est pas face à des politiques qui prennent en compte cette difficulté. Il ne faut rien pour encourager ce type de pratique.
Oui, contrairement au discours.
Contrairement au discours, il y a des reculs même, plutôt que des avancées. C'est vraiment regrettable. Donc, ça veut dire, si on n'a pas d'aide, vivre simplement de sa production. Et c'est vrai que ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans le conventionnel, qui en seraient complètement incapables.
Parce que nous ne payons pas le juste prix, entre guillemets, quand nous achetons des fruits et légumes industriels, hein, puisqu'ils sont quand même beaucoup subventionnés, mais ils sont subventionnés par le biais de nos impôts. Alors comme je le dis quelquefois, nous pouvons subir la double peine, puisque quand il y a le logo agriculture biologique, au-delà, au niveau des cultures, il y a des contrôles qui se font par des organismes ou des associations indépendantes, Nature et Progrès, Demeter, il y a Ecocert, mais je pense qu'ils sont plus sérieux, Nature et Progrès et Demeter. Donc il y a des cotisations, et forcément, et en toute logique, ça se retrouve sur le prix des fruits et légumes. C'est réparti entre les consommatrices et consommateurs qui sont acteurs de leur consommation. Donc, ils vont payer le juste prix, là, peut-être. Et ils sont obligés, malgré tout, de financer l'agriculture mortifère et industrielle. Il y a quand même... Alors que ces gens, moi, je dis, ces dirigeants des transnationales qui nous polluent, qui nous rendent malades, eux, ils engrangent les bénéfices. Et nous, enfin, si nous achetons bio, nous payons là, peut-être plus... nous subventionnons une agriculture dont nous ne voulons pas. Ensuite, nous avons un impact sur la santé. Donc, ça veut dire que c'est aujourd'hui en France la sécurité sociale qui va financer. Donc, c'est encore nous. Les autres s'enrichissent. Nous payons la dette. Et en plus, forcément, les soldes sont morts. Donc, on rajoute des intrants et on n'en finit plus. Où va-t-on ?
Je pense que le meilleur moyen de sortir de ce problème, c'est justement de consommer différemment. Et justement de refuser d'acheter ces aliments dans les grandes surfaces, etc. Privilégier vraiment les circuits courts, donc directement acheter directement au producteur. Certes, on va payer peut-être un peu plus cher, mais ça va permettre à ce producteur peut-être de vivre. Et comme il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de producteurs, j'ai l'impression qu'ils se lancent maintenant en permaculture. Justement, on a besoin que ces gens puissent gagner leur vie pour basculer dans un autre système. Je pense que si chacun effectivement met du sien et mange différemment, achète différemment, on a quand même un pouvoir sur le système dominant qui est important. Le problème, c'est que la prise de conscience des gens face à un produit qui est assez cher, et disons, beaucoup de gens ne passent pas à l'acte. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, hein, si on interroge les gens, ben oui, il faut manger bio, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour l'environnement, mais je n'ai pas les moyens. Donc c'est souvent l'argument qu'on trouve.
Oui, c'est vrai. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est que certaines et certains ne peuvent manger que des produits morts, parce qu'ils sont plus subventionnés que les autres. Ça, c'est proprement scandaleux. Après, c'est effectivement des choix. Moi, je pense que j'ai un budget qui est supérieur à la moyenne au niveau alimentation. Et après, c'est des choix. Moi, je n'ai pas des abonnements de smartphone, de ci, de là, partout, qui font que finalement, je suis obligé d'amputer mon budget alimentation, qui est pourtant le carburant de mon corps. Donc, si je l'alimente mal, je dirais, si je mets du diesel dans un moteur essence, ça ne va pas fonctionner. Ou mal, en tout cas, est tombé en panne. Oui, Philippe.
Oui, et puis, juste, ce qu'il faudrait préciser, c'est que dans la nourriture bio, effectivement, elle peut être chère, mais je crois que celle qui est surtout chère, c'est le bio-industriel, celui que tu vas acheter en grande surface, qui est inabordable, parce qu'il y en a qui s'engraissent. Du bio-industriel, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est ce que tu disais, ce que tu décris, c'est de la vente directe des producteurs qui vendent à des consommateurs. Et alors, effectivement, le producteur vend un peu plus cher que s'il le vendait pressé à un supermarché où il est obligé de s'aligner sur les prix qu'on lui impose. Mais le consommateur, au bout, il l'achète aussi moins cher qu'il l'achèterait ailleurs.
Oui.
Donc, c'est la vente directe, hein, la solution. Ce n'est pas le bio-industriel. On ne va pas remplacer de la chimie industrielle par du bio-industriel. Il n'y aura plus de paysans quand même. Hein.
Voilà, oui, tout à fait. C'est vraiment la vente directe. Les petits producteurs. Voilà. C'est encourager vraiment ce qu'on appelle aussi les micro-fermes, vraiment les petites productions très diversifiées dans tout un tas de...
Fermes familiales, de taille
familiale. Introduire aussi l'animal aussi qui a son rôle à jouer là-dedans.
Absolument.
Clémentine, tu voulais...
Oui, j'aimerais partager une anecdote en tant que consommatrice, justement. Il y a quelques mois, j'avais acheté un produit avec le label biologique d'une grande marque. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il n'y avait que 52% des produits qui composaient ce gros produit de biologique. Donc en fait, pratiquement la moitié n'était pas. Et j'ai trouvé ça absolument scandaleux de poser un label bio sur un produit qui, au final, ne l'est pas.
Ça, c'est notamment le cas pour les cosmétiques où ils ne sont obligés que d'y mettre 18% maintenant. Donc, je vous recommande, par exemple, ils se sont installés place de la Trinité chez nos amis Berthe Guillem. Eux, ce sont des vrais. Et lui, je salue au passage Jean-Marc et Luc, parce qu'ils font un excellent boulot. Berthe Guillem, c'est à Toulouse maintenant, et sinon, ils sont implantés dans l'Ariège, ils ont des chèvres. Moi, j'ai vu leur labo, et là, tu peux faire confiance en leurs produits. C'est peut-être plus cher que ce que tu vas trouver là, mais c'est vraiment des produits de qualité qui sont faits avec amour. Et ça, c'est aussi très important.
Et c'est local.
Et c'est local.
C'est dur, oui, absolument. Oui.
Tout à fait. Alors, si tu ne les connais pas, franchement, ce sont des gens adorables. Et donc, maintenant, ils viennent d'ouvrir un magasin près de chez nous. Berthe Guillem. C'est le nom de la grand-mère de Jean-Marc, d'ailleurs. Vous savez tout, ou presque. Mais c'est important. C'est important, justement, de défendre ça. Et donc, il y a plein de choses. Peut-être que tu as envie de nous dire encore, Laurence Talleyrac, qui a écrit plein de bouquins avec des enquêtes au muséum parues chez nos amis de Plume de Carotte. Ou toi, a priori, tu as une conscience au niveau écologique aussi.
Oui, sinon je pense que je n'écrirais pas ces livres.
Et est-ce que tu nourris bien ton enfant, justement ?
Alors, j'aimerais bien, mais la mienne est très difficile. Donc, elle ne mange absolument rien.
Ah bon ?
Oui, mais j'y sais.
Donc, il va falloir y faire des tours de magie, peut-être ?
Je ne sais pas, je vais peut-être l'envoyer chez mon voisin. Et...
Elle mange vraiment aucun légume ?
Non, c'est pas que les légumes, non, elle mange rien. J'ose pas dire ce qu'elle mange parce que je pense que...
Bon. Nous ne le dirons pas.
Changeons de sujet.
D'accord. Bon, donc il va falloir que tu l'amènes au muséum, lui dire, là, t'as vu, si tu donnes... S'ils avaient mangé ça, peut-être qu'on n'aurions jamais vu ces animaux, ces plantes...
Oui, peut-être. On m'a dit qu'il fallait que j'attende, donc je suis patiente.
D'accord.
Et j'essaye de consommer.
Patience.
Je peux, Philippe. Une anecdote. Une anecdote. Quand j'étais gamin, je ne mangeais rien. Je mange de tout aujourd'hui, je vous rassure, mais je ne mangeais rien. Mes parents voulaient me faire manger de la viande, je n'en voulais pas. Bon, c'était plutôt bien déjà, mais comme ils pensaient que c'était important, mon père avait trouvé une astuce. Je ne sais pas si c'est la bonne astuce, hein, mais il me disait qu'il avait réussi à se procurer par le boucher, donc, mais ce n'était pas tous les jours, c'était une fois par semaine. Il arrivait avec un grand cérémonial pour me faire manger un steak de bison. Et là, du coup, je mangeais. Hein. Parce que c'était quand même un truc extraordinaire.
Non, mais je retiens, je voilà. Peux essayer. Mais...
D'accord. Et, si, comme quoi, et, si, hein. Et sinon, Philippe Sanson, dans une autre vie, tu as été aussi enseignant. Donc il y a plein d'enseignants. Dans
j'ai été enseignant, oui. J'ai passé ma vie professionnelle, même si en début de carrière, avant d'être enseignant, j'ai fait... 1000 choses, certaines pas glorieuses même. J'étais banquier, charcutier, industriel.
Passer de banquier à charcutier, c'est quand même le grand écart.
Ah oui, c'est le grand écart, oui. Et après, quand même, j'ai été enseignant, j'ai passé ma vie dans des écoles maternelles. Ouais.
Donc, tu as essayé de sensibiliser peut-être les tout-petits
complètement,
à...
complètement. Sur plusieurs terrains et notamment sur l'alimentation, on était très vigilants sur les emballages. J'ai fait une guerre dirigée vers les parents que vers les enfants qui avaient tout compris par rapport aux emballages des goûters, voire des pique-niques quand on partait en pique-nique, des trucs comme ça. Enfin, bon, oui, ça, sur le terrain, il se passe des choses intéressantes avec les enfants.
Alors, Clémentine Laffa, donc cofondatrice de la compagnie Lumière Crue. Peut-être qu'avec tout ce que tu as entendu ce matin, ça va t'inspirer futur spectacle.
Justement, là, c'est plus avec les enfants, avec Arantiel.
Ouais.
Bon, sans que ce soit vraiment fait, je réfléchis au spectacle de l'année prochaine. Et cette année, je voulais monter Pocahontas, parce qu'ils sont très sur les Disney. Mmh. Et ce dessin animé m'avait beaucoup plu quand j'étais petite. Et effectivement, en le re-regardant, il a une dimension écologique très, très, très forte, ce dessin animé. Mmh. Sur la préservation de la nature, sur le respect de la nature, sur la non-volonté de modifier les paysages par rapport au confort de l'homme. Je vous encourage à le re-regarder et à retomber en enfance.
Et je peux faire écho, puisqu'il y a le film aussi de Terrence Malick, j'ai oublié le titre, mais qui évoque l'histoire aussi de Pocahontas. Effectivement, la nature y est très, 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 très magnifiée. Quoi. C'est la confrontation de deux cultures. Mais la nature est absolument... j'ai perdu le titre. Mais bon.
Même dans Avatar, je crois que la nature est bien présente. Oui. De rien.
Non, un film antérieur.
Oui, non, mais je n'ai pas le titre en tête. Oui, le cinéma aussi, le théâtre peuvent amener des choses à ce niveau-là, puisque de toute façon, tout en y mettant de l'humour, donc tu nous disais que tu abordais quand même des thèmes forts.
C'est ce qu'on appelle du grotesque, en fait. C'est le mélange entre quelque chose qui va nous terrifier ou nous déranger, et de l'humour. Le mélange des deux donne quelque chose qui pousse à rire, mais à rire jaune. Mmh. Et là, la pièce qu'on met en scène, la grosse partie du boulot, entre guillemets, la grosse production, qui a but à être diffusée en 2019, c'est 448 Psychose de Sarah Kane. Tu dois peut-être connaître Sarah Kane, Laurence.
Oui, mais j'aime pas du tout. Mais
on aime, on déteste, effectivement. C'est assez particulier. Et 448, donc, c'est sur une personne. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Il n'y a pas de personnage qui est évoqué, qui décide de mettre fin à ses jours à 4h48. Et toute la pièce, c'est vraiment un monologue avec des fragments de pensée sans forcément de... Au premier abord, on ne voit pas de lien logique, on ne voit pas de fil conducteur. Au final, chacun a l'interprétation qu'il souhaite, donc on peut en trouver un. Et ça évoque vraiment les personnes qui sont en mal-être psychique et qui se sentent complètement rejetées par la société, qui ne trouvent pas leur place et qui ne savent pas comment se comporter et qui en deviennent complètement fragmentées, justement. Donc cette pièce parle de ça. Mais je vous rassure, il y a des moments drôles dans la mise en scène. La scène de suicide qui n'est pas du tout évoquée dans la pièce, c'est une scène de karaoké sur Sarah Perquet-Yamo.
D'accord, donc il y a un détournement, mais le fond reste, c'est dans la forme, dans la présentation, et donc c'est toi qui seras seule en scène ?
Pas du tout, je suis à la mise en scène.
D'accord.
Donc la création a été faite avec deux comédiens, Marie Guérin et Arthur Pereira, qui nous ont quittés cet été. Sont partis vers d'autres projets. Et moi, je ne voulais pas me mettre sur le plateau, justement pour avoir... Le recul, pour pouvoir vraiment gérer la mise en scène, faire la direction d'acteurs. Donc là, je suis en train de recruter deux nouveaux comédiens. Sauf que j'aimerais bien qu'on soit trois finalement sur le plateau. C'est quelque chose qui m'est apparu il n'y a pas longtemps. Du coup, peut-être, maintenant que la mise en scène est terminée, peut-être que je vais me mettre sur le plateau avec les comédiens. Parce que j'ai quand même très envie d'y être.
D'accord. Donc tu as envie d'écrire, de mettre en scène et de jouer, mais ça c'est...
Absolument.
Tout, ça forme un tout. Donc du coup, tu habites aussi forcément les personnages et là-dedans, justement, si tu es, là, tu fais ce choix complet. Et est-ce qu'à terme, ça ne te dirait pas d'écrire justement des scénarios pour le cinéma ?
Alors, il faut savoir que j'adore mettre en scène des textes qui existent déjà et les interpréter. Par contre, je suis pas une très bonne écrivaine. Ça m'est déjà arrivé d'écrire des textes, de les mettre en scène, mais il y a beaucoup d'improvisation, pardon, qui s'y mêlent. Mais écrire, moi, je trouve qu'il y a déjà des textes qui sont magnifiques, donc je vais pas. Non, je vais pas apporter ma patte pour l'instant. Vaut mieux pas. Bon,
tu as déjà beaucoup à faire de toute façon avec toutes les activités. D'autant que plus dont tu partiras aussi au moins une semaine en Avignon avec la compagnie.
C'est ça pour le Festival Off. Donc là, c'est un autre registre. C'est du Molière revisité avec que du fun, si on peut dire.
Et là, donc, tu es chargé de communication, donc ça, c'est ton ancien métier que tu retrouves, enfin, que tu es obligé d'appliquer aussi, peut-être pour la compagnie Lumière Crue, parce qu'il faut.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Tu es obligé de faire aussi de la communication, puisque quand tu n'es pas une structure aux mille pattes où il y a des.
C'est ça, dans ce genre de milieu, il faut être polyvalent. Dans un premier temps, ça, c'est sûr.
Et est-ce que, question subsidiaire, tu as ce fameux statut d'intermittente du spectacle ?
Alors, pas cette année. Et il m'a beaucoup fait peur, ce statut. Mais là, je suis en train d'y réfléchir. Peut-être qu'éventuellement, ce serait une solution. Mais là, je t'avoue que, pour l'instant, je vais partir un peu en vacances.
Mais ça fait du bien aussi, les vacances.
Et préparer tout ce qui va se passer à la rentrée, donc 4-48 et les soirées théâtralisées à l'Oboème. Et le clown.
Tout un programme. Et Luc Morin, est-ce que tu peux nous rappeler comment fait-on justement pour aller chercher éventuellement voir ta production et comment éventuellement commander des paniers ?
Eh bien, en général, je fonctionne un peu, c'est peut-être un peu spécial, c'est-à-dire j'ai des clients, donc je leur envoie un SMS tous les vendredis, je leur indique la production, et ils me répondent par retour s'ils veulent un panier ou pas. Après, je fonctionne beaucoup par le téléphone portable. Alors,
Je
peux le donner, donc oui, si des personnes sont intéressées, c'est donc le 06 07 80 36 45.
Tu peux le rappeler parce que le temps de prendre un papier et un crayon, parce que là je vois que Clémentine, mais après. Mais c'est. On l'aura et d'autres. Mais tant mieux, c'est très bien. Hein, que des passerelles se créent entre les invités, c'est super. Alors tu nous rappelles.
Le 06 07 80 36 45. On peut trouver aussi la page Facebook La Saison Vive et me contacter par ce biais.
Là, en ce moment, qu'est-ce que tu as comme type de production ?
Alors, les tomates commencent. Bon, alors j'ai eu des soucis, évidemment, tout le temps. Là, j'ai eu un gros souci de pollinisation cette année. Alors, c'est dû, bon, forcément, on sait la disparition des abeilles, qui est cette année très problématique, liée à une météo très capricieuse. Du coup, j'ai eu un manque de pollinisation sous abri, sous serre. C'est-à-dire, les abeilles ne viennent plus, en fait. Donc, après, voilà, j'ai planté suffisamment de plants de tomates pour avoir une bonne production de tomates cette année. Donc, les légumes d'été, c'est commencé. Courgettes, concombres, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des blettes. Les petits pois arrivent, un peu en retard, mais ils sont là. Et des carottes. J'avais des navets, c'est la fin maintenant. Bon, j'essaye de diversifier et de rattraper un peu le temps perdu parce que j'ai eu beaucoup d'aléas cet automne, donc j'ai pris un peu de retard. J'essaye vraiment de combler ce retard pour avoir la meilleure production possible. Des haricots verts aussi sont là.
Et donc, tu ne regrettes pas d'avoir franchi ce pas et d'être passé du temps du professeur au temps du permaculteur ?
Non, pas du tout. Alors, c'est vrai que le temps est très différent. Il est géré de façon très différente. Après, effectivement, être professeur, il y a des privilèges, il y a les vacances. On pourrait penser à les week-ends, mais les week-ends sont souvent très occupés aussi à la correction des copies. Donc, c'est du temps libre, mais pas tant que ça. Là, c'est vrai, je suis tous les jours débordé. Je ne prends pas de vacances, je ne prends pas de week-end pour l'instant. Mais ceci dit, je ne regrette absolument pas parce que je crois que j'avais besoin d'un rapport vraiment profond à la nature, de vivre beaucoup dehors plutôt qu'enfermé dans mon appartement à Toulouse. Donc, là, sur ce plan-là, je suis très satisfait. C'est vrai que c'est des journées très, très chargées. Mais en même temps, je suis libre aussi d'organiser ma journée comme je le souhaite. J'ai pas de supérieur hiérarchique, ça aussi c'est intéressant. Et puis je prends le temps dans la journée de m'arrêter un peu, d'observer là, ce qui se passe, les animaux. Voilà, donc c'est vrai que physiquement c'est très dur. Donc franchement, c'est vrai que je vais avoir 50 ans, c'est vrai que c'est dur. Donc je pense que quelqu'un qui n'aurait pas une très bonne condition physique, vraiment, il faut l'avoir. Sinon. C'est parce que tout est vraiment manuel, c'est très peu mécanisé. J'ai un motoculteur que je m'en sers le moins possible. Après, c'est vraiment tout est manuel, souvent courbé sur la terre, etc. Mais en même temps, j'aime bien ce contact. Je ne pourrais pas m'en passer du tout. Vivre sur un tracteur, aucun intérêt pour moi.
C'est aussi l'enracinement, Philippe. Mmh.
Oui, peut-être une petite question par rapport à ta distribution de paniers. Tu disais que le vendredi, tu envoyais un SMS, oui. Tout ça. Oui. Donc les gens, en fait, ils s'engagent au dernier moment sur le panier du dimanche, quoi.
Oui.
Il y a quand même une fragilité, parce que nous, par exemple, avec une association qui s'appelle l'Après, donc, on a mis en place, pas une AMAP, hein, mais genre ce qu'on appelle des paniers paysans, qu'on fait venir du Tarn-et-Garonne. Et on veut une souplesse, mais quand même, on a voulu qu'il y ait un engagement minimum de 4 semaines, tu vois, d'un mois.
D'accord.
Renouvelable ou pas, après, parce qu'il y a les périodes de vacances, il y a des colocataires, tu vois, ça laisse une souplesse. C'est moins lourd que la MAP, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'engager. Nous, on a des colocataires, des étudiants qui s'engagent sur une partie de l'année, sur un mois, d'accord. Deux mois. Mais je me demandais si économiquement, tu n'aurais pas intérêt à demander à ce que les gens s'engagent parce que c'est difficile pour toi de prévoir de l'avant-veille.
C'est pas, non, c'est pas évident, non, tout à fait. Disons que j'ai un peu, disons qu'en basculant sur ce type de façon de faire, j'ai peur de perdre quelques clients.
Bon, après,
que je les retrouverai.
Il faut les sonder.
Oui,
je crois.
Oui, là, je pense qu'ils ont quand même un certain confort, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas si simple que ça.
C'est compliqué.
C'est assez compliqué, effectivement.
Oui, il faudrait peut-être que tu envoies le SMS plus tôt dans la semaine pour.
Alors après, la difficulté, c'est parfois, je suis quand même un tout petit producteur, c'est pas toujours évident d'évaluer, par exemple, mercredi, ce qu'il va y avoir le dimanche. Donc le vendredi, c'est un peu plus facile. Voilà, parce que je suis vraiment un tout petit producteur et je dois. Voilà, je suis à peu près une quinzaine de paniers, je vais essayer de monter à. L'objectif, c'est si je pouvais monter à 25 dans quelques mois, ce serait bien. Mais effectivement, j'ai pensé à la MAP, j'ai pensé à d'autres systèmes qui seraient un peu plus simples pour moi. Donc oui, je retiens l'idée.
La MAP, c'est super, parce que ça pérennise quasiment, enfin, même si ça reste fragile, ça pérennise quand même l'activité d'un paysan. Mais c'est très, ça exclut pas mal de consommateurs potentiels intéressés.
Je pense.
Parce que il y a les vacances, il y a tout ça, c'est lourd. sur un système intermédiaire, je dirais, qui n'est pas le principe de la MAP, hein, ce qu'on a essayé de faire, ces paniers paysans, il y a une grande souplesse et c'est le mois, quoi. Enfin, déjà, d'accord, sur un mois, tu peux prévoir. Il faut réfléchir à ça, je crois. Sonder les consommateurs.
Il y a le problème de l'été, c'est vrai, parce que effectivement, dans mes clients, il y a forcément beaucoup de profs. Et c'est vrai que l'été, j'ai une perte en clientèle qui est monumentale. J'ai fait des demandes sur les marchés. Alors, visiblement, c'est compliqué d'entrer sur un marché aux alentours de Toulouse. Hein. J'ai eu que des refus. Donc, c'est vrai, avoir en complément un petit marché pour pouvoir écouler le reste de la production que je ne peux pas écouler dans les paniers, ça me serait effectivement très bénéfique. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de succès dans ce domaine.
Et oui, comme quoi, mais ça veut dire que il y a peut-être une chasse gardée aussi, quelquefois, sur certains marchés où certaines sont complets. Le marché que connaît très bien Philippe, et je le connais aussi, de Saint-Aubin à Toulouse, est très prisé et il tourne bien.
Ah oui, absolument. Comme le marché du Capitole aussi. Oui. Hein. Mais bon, ils sont un peu complets, quoi. Voilà, c'est ça, c'est difficile. Après, il y a un nouveau petit marché. Alors, je ne sais pas où ils en sont, mais je connais celle qu'il a montée. Il existe depuis pas si longtemps. Ça peut être intéressant de s'y rapprocher pour voir s'il y a quelque chose à faire. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est situé le long du canal du Midi, dans un petit jardin, face aux péniches, après les pompiers, là, entre les pompiers et le pont des Demoiselles.
D'accord.
C'est le samedi matin.
Samedi matin, d'accord. Peut-être. Alors...
Ils sont tous en bio, là. Ouais, celle qui a monté ça, c'est quelqu'un qui tenait une épicerie bio place Dupuis, qui a décidé d'être en direct avec des paysans, de les favoriser, ce lieu-là. Elle a obtenu ce petit espace-là, où le samedi matin, il y a... Ça date de... même. Peut-être un an, pas plus d'un an. Donc je ne sais pas s'ils sont tous au complet là. Ça peut être intéressant.
D'accord.
Voilà. Donc ça continue, les passerelles qui se dressent dans l'émission Traversée. Elle ne s'appelle pas Traversée pour rien, l'émission. Et oui. Donc Laurence Talera, qu'est-ce que tu as sous le coude aussi, un ouvrage en cours? Je crois qu'il y en a un qui va paraître donc en septembre chez nos amis Plume de Carotte.
Toujours chez Plume de Carotte. Alors il y en a plus d'un. Oui, c'est 6 titres par an. Donc il y en a 3 qui sortent en septembre, qui sont déjà écrits, que l'illustrateur a sous la main en ce moment. Donc il est en train de travailler dessus.
Tu peux nous rappeler le nom de l'illustrateur?
Titouane. Donc il y aura le muséum de Bourges sur les chauves-souris dont j'ai parlé tout à l'heure, le muséum de Neuchâtel sur le thylacine, encore une espèce disparue, et enfin un qui ne se déroule pas dans un muséum d'histoire naturelle mais dans un musée d'anatomie et qui touche à l'exposition des restes humains. Donc voilà, encore des questions sensibles. Et puis pour 2019, il y a a priori à nouveau 6 titres qui sortent, donc je n'arrête pas. Et pour répondre à la question de mon voisin en off tout à l'heure, oui, je me rends sur site systématiquement. Je travaille en amont avec les musées dont je vais étudier les collections, donc avant de m'y rendre. Et ensuite, je passe entre 2 et 5, 6 jours dans le muséum pour comprendre l'histoire de la constitution de leur collection. Les thématiques que eux souhaitent mettre en avant. Hein. Tous les muséums n'ont pas du tout le même discours. Ils n'ont pas non plus le même passé. Et ce qui m'intéresse aussi, ce sont les liens entre les traversées, les liens entre les muséums et l'histoire de ces collections qui ont parfois circulé, alors qui ont circulé parce que des chercheurs qui ont fait des dons ont eux-mêmes circulé, ou qui ont circulé parce que certains muséums ont essayé de se débarrasser de donner des spécimens dont ils n'avaient plus besoin, ce qui est venu enrichir d'autres muséums, notamment en province. Donc il y a toute une histoire de ces collections, une histoire croisée qui, moi, me fascine et dont il est question dans ces petits romans.
Donc pour écrire tout ça, il faut être donc aussi une passionnée.
Oui, on parlait de vacances tout à l'heure. Je pense que quand on...
Tu les passes dans les musées, les vacances?
À peu près, oui. Muséum. Si on suit sur les pages Facebook, on voit dans quel musée je me rends systématiquement. Quand on est chercheur ou quand on est écrivain, je pense qu'on ne compte pas ses heures. C'est la passion qui nous mène, oui. Sinon, il n'y aurait rien.
Mais la passion, c'est aussi la vie. Et je suppose que Clémentine sera de mon avis aussi.
Bien sûr.
Parce que pour faire du théâtre, il faut être passionné.
Évidemment. Mais toute chose au quotidien peut pousser à la création. Dans son bain, on se dit, j'ai cette idée-là, vite, il faut que je l'écrive. En regardant les gens dans la rue, on peut s'en inspirer. Enfin, je pense que oui, tout quotidien est création quand on est passionné dans ces choses-là.
Alors, il y en a qui sont passionnés aussi de chansons et de musique. Donc, je vous ai parlé de celui, et je le remercie, c'est un de mes fils, Damien Moreto, qui a fait l'indicatif de l'émission. Mais il a aussi cofondé un groupe qui s'appelle Melting Blue. Et ils ont maintenant ils sont sur YouTube. Ils ont enregistré donc un clip. Et la chanson s'appelle Agent in Orange. Et c'est donc Melting Blue, nous les écoutons, et sortie prévue au mois de septembre. D'un CD, d'un album. À tout de suite. Bon, le temps qu'il arrive, c'est parti. Vous êtes donc à l'écoute de l'émission Traversée sur Esprit Occitanie et nous allons partir donc à la découverte de Melting Blue, Agent in Orange. À tout de suite sur Esprit Occitanie. Tani, je vous rappelle que l'émission est toujours en direct entre 10h et midi. Ici, nous ne trichons pas dans l'émission et après, vous retrouvez les rediffusions et les podcasts. À tout de suite. Silence, on tourne. Le temps que la machine se mette en route, c'est pas grave, ça télécharge. En attendant, ben voilà, ils arrivent. À tout de suite.
Olvida murallas. operando 30.000 pueblos y aldeas. En el hospital Tulu de Ho Chi Minh atienden en estos momentos a más de 60 niños afectados. Algunos con graves
Vous êtes donc à l'écoute de l'émission Traversée sur Esprit Occitanie. Et donc. Tiens, une question que je n'ai pas encore posée à Laurence Talera. Comment s'est passée la rencontre avec nos amis de Plume de Carotte?
Alors, quand j'ai conçu le projet, il était tout petit au départ. Hein, j'ai commencé à écrire sur les collections du Muséum de Toulouse, puisque j'ai expliqué tout à l'heure que je travaillais avec eux en tant que chercheur. Et le directeur du Muséum de Toulouse, donc Francis Duranton, a eu l'idée de faire grossir le projet, de le proposer à la conférence permanente des Muséums de France. Et à partir de là, une fois que c'était validé, de se mettre en quête d'un éditeur. Donc on est allé chercher plusieurs éditeurs. On a expliqué le projet, expliqué que, voilà, que c'était un projet participatif, que ça allait impliquer des thématiques différentes, des lieux différents. Et sur les trois éditeurs qui se sont montrés intéressés, c'est Plume de Carotte qui a fait la proposition la plus enthousiaste, qui était partant et qui est parti de notre projet aussi, pas de sa maison d'édition. Enfin, évidemment, la collection touche à leur thématique à eux, mais finalement, c'était l'éditeur qui avait la plus belle éthique et qui était le plus enthousiaste et qui a proposé un montage économique qui satisfaisait tout le monde. Donc c'est parti de là.
En plus, c'est un éditeur local.
Et c'est local.
On est indépendant.
Local, en fait. Oui.
Donc c'est important de le défendre aussi, tout comme les librairies indépendantes. J'ai cité les frères Floury, mais il y a aussi la librairie de la Renaissance. Il y a Terra Nova aussi, qui fait du très bon boulot. C'est important de défendre, comme l'agroécologie. Tiens, une question peut-être que peuvent se poser quelques auditrices et auditeurs de l'émission Traversée. Qu'est-ce qu'exactement la permaculture? Est-ce que tu aurais, Luc Morand, une définition à donner un petit peu?
Parce que c'est
la culture écologique, mais il y a une manière de travailler. Il y en a plusieurs, sans doute. Même.
C'est assez vaste, la permaculture, et on peut la définir de plusieurs façons. C'était un terme qui a été inventé dans les années 70 par deux Australiens, Bill Mollison et David Holmgreen. Ils sont partis du constat que les énergies fossiles étaient déjà en voie d'épuisement. Il y a eu une révolte du coup contre le système industriel et agricole de l'époque. Déjà dans les années 50, Bill Mollison avait fait le constat que effectivement la nature, parce qu'il vivait en Tasmanie, vraiment au milieu de la nature complètement, déjà dans les années 50, il avait constaté qu'il y avait moins de poissons, il y avait moins, vous voyez, donc ça remonte quand même déjà longtemps, cette prise de conscience. Donc la permaculture, c'est viser d'abord, on va dire, l'autosuffisance. Donc avant, effectivement, de nourrir effectivement des clients, c'est d'abord se nourrir soi-même. Donc être en autosuffisance alimentaire, énergétique. Donc il y a des méthodes qui existent en permaculture pour justement, on va dire, construire sa maison et faire en sorte qu'il y aura le moins besoin de la chauffer possible. Il y a tout un ensemble de techniques qui existent, effectivement, qui permettent de s'affranchir un peu du modèle économique. Donc vivre en autosuffisance, en harmonie avec la nature, c'est-à-dire ne plus travailler contre la nature, mais en accord avec elle. Donc le contraire de ce que fait l'agriculture conventionnelle, en fait. Donc ça implique certaines techniques. Donc, par exemple, arrêter de labourer le sol, ne plus le retourner. Ne jamais laisser le sol à nu. Donc toujours, le plus possible, pailler le sol. C'est-à-dire, en fait, observer la nature, comment fonctionne la nature, essayer de s'en inspirer. Voilà, parce que la nature, par elle-même, est extrêmement productive. Et l'agriculture qu'on a fabriquée ces 50 dernières années, c'est une agriculture qui, finalement, n'est pas plus productive que la nature elle-même. C'est l'agriculture qui dépend des produits phytosanitaires, des pesticides, etc.
Des poisons.
On peut appeler ça des poisons, tout à fait. Et donc, qui ne sait plus faire pousser des légumes sans forcément balancer des médicaments qui vont les aider à lutter. Alors que dans la nature, je constate sur ma petite surface, j'ai quasiment aucune maladie. Alors, le plus compliqué, c'est plutôt les ravageurs, parce qu'il faut lutter contre des chenilles, etc. Là, c'est pas simple. Mais des maladies, quand on a un sol qui est vraiment ce qu'on appelle un sol vivant, qui est respecté. Donc, la permaculture, c'est aussi respecter le sol, vraiment. Et donc, ça se passe quand même bien. Je vois pas trop de maladies. Donc, essayer de mettre les plantes en relation. Il y a des synergies qui se créent parfois dans certaines espèces. Végétale. Bon, voilà. Donc, en gros, un peu les pratiques de la permaculture. C'est aussi un mode de vie. Donc, c'est effectivement, comme je disais, prendre ses distances par rapport à la société de consommation, vivre peut-être dans un petit espace, mais qui va donner au milieu de la nature.
Et là où tu es, est-ce que tu n'es pas autour, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'exploitants agricoles qui balancent un certain nombre de produits?
Alors, il y en a, effectivement. Bon, j'ai la chance d'être quand même entouré de réseaux d'arbres, ce qui fait que je suis relativement protégé. Bon, les champs sont à distance, j'espère, suffisante, et en plus, avec les réseaux d'arbres qu'il y a tout autour, ça me garantit quand même de produire des légumes. Il y a toujours des résidus qui traînent dans l'air et dans la terre, mais le plus sain possible.
D'accord. Donc tu es relativement protégé. Mais comme le disent souvent Lydie et Claude Bourguignon, que tu dois connaître.
Oui, tout à fait. J'adore ces gens-là, d'ailleurs.
Ils disent justement que c'est une aberration, comme tu as parlé, de mettre avec des tracteurs avec des charrues énormes qui creusent à 40-50 cm le sol. Donc ils retournent en fait le vivant.
Il retourne le vivant, puisque le vivant, il est quand même essentiellement, il est composé de strates, effectivement. Et donc, il y a notamment le vivant, il est essentiellement dans la couche supérieure, 15 cm en fait. Et donc, en labourant, on détruit complètement ce vivant, et on le fait plusieurs fois par an, ce qui fait qu'on a des terres complètement stériles. Après, on est obligé de balancer de l'engrais chimique, des engrais minéraux, qui ne vont pas nourrir la terre, mais qui vont nourrir directement la plante. Donc, c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans la nature. Il faut nourrir la terre, l'enrichir, pour que ensuite, naturellement, la terre nourrisse la plante. Mmh. Et en permaculture, d'année en année, on voit, quand on a de bonnes pratiques, la terre qui va s'améliorer de façon très très spectaculaire.
Et les vers de terre qui viennent rendre visite.
Voilà, c'est vraiment des hôtes de marque, de choix. Et voilà. Donc, je peux parler aussi du BRF, le bois raméal fragmenté, qui est très très intéressant pour justement agrader le sol, l'améliorer. J'ai pu constater sur quelques mois qu'effectivement, donc le BRF, pour ceux qui ne connaissent pas, le bois raméal fragmenté, c'est qu'on va justement fragmenter le bois à l'aide de broyeurs, plutôt des branches fines, 1 cm d'épaisseur, le recouvrir la terre de ce bois, l'incorporer, la décomposition va être assez rapide, et la terre en quelques mois est transformée en fait.
Et je salue au passage Bernard Bertrand des éditions de Terran qui avait publié un certain nombre d'ouvrages sur le BRF et qui maintenant est distribué par Pictos, donc, qui est aussi un éditeur de la région toulousaine puisqu'il est basé à Escalquens. Et dans un documentaire, Claude Bourguignon, c'est le documentaire Solutions locales pour un désordre global de Colline Serrault que j'avais eu le plaisir de recevoir sur une autre station radiophonique avec Cyril Dion, disait que, par exemple, les chars américains, ils avaient été finalement recyclés en tracteurs. Énorme. Et que, par exemple, et nous avons aussi Monsanto qui fabriquait l'agent orange qui a détruit en partie le Vietnam et donc les vies au Vietnam et qui a encore des conséquences sur les malformations des nouveau-nés, eh bien, il a juste changé peut-être la formulation pour les transformer en produits, non pas phytosanitaires, mais en poison pour l'agriculture.
Oui, c'est assez scandaleux de voir que les innovations dans le domaine militaire, effectivement, si on peut parler d'innovation, effectivement, ont contribué à l'évolution de l'agriculture ces 50 dernières années. Ouais. Mais je ne pense pas que tous les gens aient forcément conscience de ça, mais c'est bon de le rappeler. Ouais.
Voilà, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations peut-être à ce niveau-là.
Puisqu'ils cherchent à se racheter une conscience maintenant, ils vont changer de nom, puisqu'ils vont être rachetés.
Bayer.
Par Bayer,
oui,
les gens
vraiment,
ça, ils me connaissent moins.
C'est
bon.
Guère mieux.
Hein. Bon, ouais, Bayer, c'est pareil.
Peut-être.
C'est pareil. Ils fabriquent les poisons et après les médicaments pour te soigner. Donc
oui,
c'est super. Hein.
Mais Monsanto l'a dit, leur nom est trop connoté maintenant. Donc ils veulent passer à autre chose.
Oui, oui.
Donc, voilà. On recycle.
Et en plus, les plaintes qui ont été déposées contre Monsanto risquent du coup de devenir obsolètes aussi.
Ah, ça, je ne sais pas, mais ça, c'est une bonne question.
Donc, il y a tout ça. Est-ce que Clémentine, le théâtre est obsolète? Non, pas du tout.
Jamais. Jamais. Il n'est jamais obsolète. Il se réinvente à chaque fois.
Et puis, c'est une bonne école aussi pour la vie. Et puis, une bonne école quand on n'est pas suffisamment sûr de soi, qu'on a peut-être le trac. Je l'ai eu. Hein, j'ai été un très grand timide et le théâtre m'a en partie soigné, pas que le théâtre, mais c'est quand même une école de la vie, c'est quelque chose qui permet de prendre confiance et conscience de soi, mais confiance aussi en soi.
Tout à fait, c'est vrai que le théâtre m'a beaucoup aidée quand j'étais gamine, parce que j'avais une voix comme ça, on ne m'entendait pas, je ne regardais pas les gens dans les yeux, je n'aimais pas ça du tout, et c'est vrai que ça permet effectivement déjà de se mettre sur une scène, de se faire mettre à nu devant du monde, même si on est protégé par la scène, qu'on joue un rôle. Et puis effectivement, une grosse conscience de soi, parce que le travail de comédien, c'est aussi de puiser dans ce qu'on est et de le donner à l'autre, au public et à son partenaire de jeu. Et ça, c'est super. Et j'ai pas mal de mes élèves, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, qui, à la fin de l'année ou de leur coaching, ont pris confiance en eux. Donc ça, c'est génial. Ça n'empêche pas de rester timide toute sa vie. Hein. La timidité est une chose, mais je connais des gens qui sont extrêmement timides, qui sur scène vont tout exploser, être extrêmement charismatiques. Et c'est souvent l'inverse. Des gens très extravertis dans la vraie vie qui vont venir discuter sans aucun problème, qui n'ont pas de complexe, tu les mets sur une scène, ils sont complètement rigidifiés.
Et donc, si nous voulons nous inscrire, nous tapons pour suivre tes cours, tes conseils, nous tapons Compagnie Lumière Crue et nous avons toutes les indications.
On a un site internet, mais après, je donne les cours en indépendant, donc en mon nom. Vous pouvez m'écrire sur le mail de la compagnie ou sur mon mail personnel. Si vous voulez que je vous le donne.
D'accord, bien sûr que je veux que nous voulons.
C'est clem.lapha, L-A-P-H-A, @gmail.com.
D'accord, tu peux nous le rappeler, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Clem.lapha, L-A-P-H-A, comme pharmacie, @gmail.com. Et pour info, si vous voulez voir un petit peu ce qu'on fait, je joue à la Cave Poésie dans le cadre de la Pleine Lune le jeudi 28.
D'accord, donc Le directeur de la Yann Valade, que j'ai reçu un certain nombre de fois dans l'émission, et si demain, CAF Poésie, qui fait aussi un bon travail au niveau, bien sûr, culturel. Donc, tu nous rappelles la date à la CAFPO ?
Alors, c'est le 28 juin, à partir de 21h, pour un seul en scène qui s'appellera la colposcopie de Phèdre.
Ouh là là, c'est un programme, c'est sérieux comme programme.
Je vous en dis pas plus.
Bon, alors à découvrir à la CAF Poésie. Donc Philippe Sanson, où trouve-t-on, on fait alter écho chez tous les bons marchands de sable.
Tous les bons lieux, quoi. Hein.
Chez nos amis de l'American Cosmographe, entre autres.
American Cosmographe, Utopia Tournefeuille, Le Récantou, la librairie Floury. Les imaginations fertiles à les Maurice Sarrault.
C'est quoi ça les...
Ah, c'est un lieu, c'est Fab Lab, hein, c'est le.
D'accord. C'est là.
Ce lieu multiple, associatif, militant. Tu le trouves à Arnaud Bernard, chez le marchand de journaux, qui nous le prend gracieusement. On le trouve ou ailleurs encore. À la librairie Tartinerie de Sarin, au Piboule à Montauban.
Oui, qui est aussi un très bon. C'est, je vous recommande d'ailleurs. Enfin, si vous consommez de la viande,
et
en
on
tous
le
les
trouve,
cas,
je précise, le là, Big c'est Bull, important. C'est on le trouve depuis un mois là maintenant, puisque elle était d'accord très gentiment. Le mardi et le samedi au marché bio du Capitole, au stand épicerie de Virginie, qui nous a mis un petit présentoir et on peut acheter le journal au marché bio. Hein, voilà, ça. C'est bien.
Et puis, je vois aussi que dans le numéro qui vient de sortir, donc consacré aux arbres, et donc à la vie, aux arbres citoyens, hein, pas aux armes, hein, aux arbres citoyens, citoyennes et citoyens, qui a une campagne aussi pour cofinancer Alter Echo, qui est lancée sur Hello Asso.
Oui, on cherche, parce que, évidemment, l'équilibre financier est très fragile. Depuis sa création, le journal vaut 2 euros. On le poste, on n'a aucun tarif privilégié à la poste. Un envoi, on a des abonnés en Midi-Pyrénées, mais en France, quelques-uns à l'étranger. Ce n'est pas l'étranger qui nous coûte cher, d'ailleurs. Ça coûte plus cher d'envoyer dans le Lot que d'envoyer en Thaïlande, par exemple, comme je l'envoie. Je peux expliquer pourquoi, mais enfin, je ne sais pas si c'est intéressant. Mais enfin, c'est intéressant de voir les reculs qu'il y a eu. Parce qu'il fut un temps, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on va dire, quand on envoyait par la poste un journal, un livre, il y avait un tarif qui s'appelait brochures, livres et brochures, qui était un tarif préférentiel, privilégié, qui est peu cher. Et subitement, et ça a quand même été une grave atteinte à la pérennité de ce qu'on appelle les petits journaux et les petits journaux militants qui diffusaient en France, ce tarif a été supprimé pour la France. Maintenu pour l'étranger. Quand j'envoie un journal en Thaïlande, au Québec, en Palestine, ben ça me coûte moins cher que de l'envoyer dans le Lot.
C'est la privatisation des postes et télécommunications, devenue la poste, qui est devenue la banque postale, etc.
Voilà, donc on cherche des abonnés, des
Merci,
soutiens.
On
s'abonne pour 12 euros pour 4 numéros, c'est-à-dire pour 15 mois, puisqu'on sort tous les 4 mois. Et là, on va soit sur Hello Asso, Alter Echo, on peut s'y abonner directement. Sinon, il faut envoyer 12 euros par chèque à mon adresse.
Oui, tu peux la donner.
Je peux donner. Donc, Philippe Sanson, précisant Alter Echo, 24 rue Lucien Cassagne, 31-500 Toulouse. Et voilà, c'est parti pour 15 mois d'abonnement, 4 numéros.
D'accord, et c'est toujours des numéros fouillés, même si ce ne sont pas des journalistes estampillés tant que journalistes. C'est quand même du travail de fond et d'écriture, oui. et ceci étant peut-être au moins avec un engagement. Comme je le dis un certain nombre de fois, quand on est journaliste, qu'on écrit pour le Figaro, on n'écrit pas la même chose que pour le Canard Enchaîné ou Politis, par exemple.
Voilà.
Ou sur reporter.
Oui, puis on a des plumes diverses. Par exemple, sur le prochain numéro, on va avoir deux philosophes qui vont écrire. Déjà, ça nous arrive d'avoir des philosophes qui écrivent pour parler de la nuit, donc ça va être un aspect. Mais après, on va être sur des choses, par exemple, aussi très concrètes.
sur la pollution lumineuse la nuit, avec tout ce que ça entraîne de dégâts sur divers niveaux.
France Nature Midi-Pyrénées, d'ailleurs, s'y est beaucoup penché.
Ben voilà, c'est eux qui vont nous faire ça. Et on va avoir quelqu'un que tu connais, je crois, que tu as reçu dans l'émission, qui va nous proposer aussi, à travers la nuit, les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire la hausse du trafic aérien nocturne depuis que les Chinois ont mis la main sur l'aéroport de Blagnac.
Oui, donc c'est Chantal Berdemander.
C'est ça. On va parler du travail de nuit, du problème des urgences la nuit, sans doute aussi. Il va y avoir un texte aussi sur, j'ai lu un livre très intéressant d'un auteur américain, qui est un essai, hein, où il parle de la nuit. La nuit a été colonisée, explique-t-il, avec force argument, par le capitalisme, avec le concept 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365. Il dit que les Américains, dans les années 50-60, dormaient 8 heures par jour. Aujourd'hui, ils en sont à 5h30. Le travail nocturne ne cesse d'augmenter. L'activité économique aussi, avec les échanges financiers. Enfin, le capitalisme, ça y est, s'empare de la nuit. Ça en est déjà bien emparé.
C'est pour empêcher les personnes de bien dormir et comme ça, les faire disparaître avant qu'elles atteignent la retraite.
Peut-être. Ça, c'est peut-être l'hypothèse qui a été posée.
C'est une plaisanterie, mais ça peut être aussi une réalité parce que on nous parle toujours de sous, d'économie à faire. Pourquoi ? Alors, j'ai appris là récemment que Monsieur le Président de la République voulait faire construire une piscine au fort, je ne sais plus là où se retirent les présidents. Si c'est sur ces deniers,
pourquoi pas.
Mais si c'est sur les deniers de la République, donc sur les nôtres, nous pouvons nous interroger. Pourquoi supprime-t-on l'impôt sur les grandes fortunes ? Pour mettre une CSG, bien sûr, pour des retraites qui dépassent 1200 euros, c'est énorme. Bon, enfin, voilà, tout un tas de questions qui ne sont pas neutres. Et justement, tiens, une question que je vous pose aussi, si vous avez envie de réagir. Qu'est-ce que vous pensez de l'action qui est menée à l'heure actuelle par Nicolas Hulot, qui est pourtant un ministre d'État, mais à mon avis bien isolé ? Philippe, Luc, peut-être Clémentine aussi. Non, Laurence,
moi,
non.
Enfin, moi, je vais bien répondre. Hein. Je crois qu'on en a déjà parlé ici même.
On va en reparler.
Je crois que ma réponse ne va pas trop changer. J'ai une grande estime par rapport à son engagement, par rapport à... Je crois que c'est un type sincère qui a énormément cheminé dans sa vie. Qu'il n'était pas au départ, hein, vraiment écolo, je crois. Et c'est souvent des gens qui cheminent, hein, qui ont compris des choses dont on peut se fier. Donc, moi, j'ai aucun a priori, au contraire, mais je pense que je n'étais pas pour qu'il s'engage dans ce gouvernement, parce que je crois que c'est contre-productif. Lui, ce qu'il dit, même s'il a raison partiellement, c'est que même petitement, il avance des pions, il cherche à faire avancer des choses. Effectivement, il y a toute une petite liste de choses qu'on pourrait mettre en avant. Hein. Mais au bout du compte, je crois que j'aurais accepté, moi, j'aurais été pour si, par exemple, il avait été... Je pense que le pouvoir, là, au niveau national, hein, je parlais... Hein, parce que le vrai pouvoir politique, d'après moi, et notamment au niveau écologique, c'est au niveau municipal que les choses peuvent se passer, hein, surtout. Une municipalité peut agir. Mais au niveau national, il faut être ou président de la République ou Premier ministre. S'il avait été président de la République ou Premier ministre, je pense que ça aurait pu avoir de l'influence sur les autres ministères. Mais là, je pense que ça va encore un peu discréditer l'écologie. Les gens vont dire, ceux qui ne sont pas convaincus, ils sont tous pareils, ça, finalement, regardez... Enfin voilà, je suis un peu. J'avais envie qu'il parte, ou j'ai envie qu'il parte. J'avais pas envie qu'il y soit, quoi.
Luc,
oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que le gouvernement l'utilise comme une caution pour bien dire ah oui, on fait quand même de l'écologie, ouais. etc. Mais l'associé au ministre de l'Agriculture, M. Travers, qui lui est complètement à l'encontre.
On l'a en travers, d'ailleurs.
Voilà, oui. Complètement. Voilà, et donc va dans le sens inverse. C'est trop compliqué pour eux. Je pense qu'il est rentré avec de bonnes intentions. Il essaye de faire ce qu'il peut faire, mais il a les mains liées. Il ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, parce qu'il y a trop d'obstacles face à lui. Et c'est vrai qu'il se discrédite un peu auprès d'une certaine... l'image qu'on a de l'écologie.
Clémentine, tu avais envie de...
Oui, bah je vais rebondir sur ce que disait Philippe. Je pense que Nicolas Hulot aurait beaucoup plus de liberté d'action et d'influence en n'étant pas dans notre gouvernement actuel, et je m'arrêterai là.
D'accord. Et au niveau culturel, est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou pareil, c'est plutôt les gros qui sont mis en avant et les petits oubliés, comme dans la paysannerie?
Oui, effectivement, le théâtre est très politique et de plus en plus. Donc les gros sont mis en avant. C'est toujours les mêmes organismes qui sont subventionnés, notamment par la DRAC. Ce qui, par contre, est très positif, c'est qu'il y a de plus en plus de mouvements, dirons-nous marginaux ou underground, qui sont en train de se former avec une grosse solidarité et une volonté collective de s'entraider et de se nourrir. Par exemple, après mon master de création scénique, on s'est retrouvés lâchés dans la nature, toutes les filles de ma promo, parce qu'on n'était que des filles, complètement perdues à ne pas savoir comment fonctionner sur le pôle professionnel, parce que ce n'est pas évident quand on ne sort pas d'une grande école. Et on s'est monté un collectif qui s'appelle le HAF Collectif, qui regroupe divers artistes de milieux différents pour justement s'entraider. Et on s'est rendu compte en discutant avec beaucoup de personnes, même des grosses structures, qu'il y avait vraiment une volonté de rassembler les gens et de passer à autre chose, en fait. Donc peut-être que l'avenir sera meilleur d'un point de vue culturel.
Tant mieux, même si à Toulouse, visiblement, le budget culturel a été revu à la baisse. Il vaut mieux installer des caméras de surveillance que de voir des jeux sur scène.
Il faut résister.
Il faut résister. Nous résistons aussi dans cette émission traversée. Mais au-delà de la résistance, nous proposons des solutions à travers nos invités. Merci d'être venu ce matin. Juste avant de partir, nous ferons peut-être une photo de groupe. Allez, ça, je le dis avant que vous ne tailliez la route. Merci en tous les cas d'avoir été là ce matin dans le cadre de l'émission Traversée. La semaine prochaine, entre autres, comme invité, j'aurai Patrick Jimena qui lui est élu à Colomiers, qui a été le seul conseiller général à l'époque écologiste et qui donc là fait partie aujourd'hui de la France insoumise et qui travaille aussi en permaculture d'ailleurs chez lui et qui vit dans une yourte. Allez, merci à toute l'équipe qui était là à la technique ce matin. Et je vous dis de toute façon rendez-vous mardi prochain avec Et si demain entre 17h et 18h. Et peut-être que mercredi, nous aurons une surprise aussi en direct. Mais ça, nous vous le dirons, nous le préciserons sur les pages Facebook dès que nous aurons l'info. Bye bye, à plus.